l'évêché.
L'évêché avec Marion.
Avec Marion.
Voilà.
Ouais. Et voilà, je suis là aussi pour représenter l'association des Amis du Parc.
Très bien.
Voilà.
Ça, c'est une bonne chose.
Merci.
Moi, je m'appelle Diego Arias. Je suis paysan boulanger à La Penne. Je suis aussi dans la même sous-commission au EDC et aussi des Amis du Parc.
Très bien.
C'est Nicky Maleski. Je suis partie de l'association des communes forestières et je compte le relais départemental Bois Énergie. Je travaille sur l'accompagnement des projets Bois Énergie collectif de tous les départements.
Donc, Amine Medini, je suis un habitant de Cigale et donc là, c'est la deuxième fois que j'assiste à votre mission. J'ai raté la sous-commission avec M. Paris, ça a terminé.
Elle a fait très bien,
c'est dommage.
N'hésitez pas à parler bien fort parce que j'ai l'impression que ça n'allait pas très souvent.
Bonjour, je suis Canon, je suis professeur cabinet de Superacet et j'ai vidéo PNR et j'assiste à divers.
Et tu veux une diversification encore avec encore d'autres considérations
hein. Oui.
Tu voudrais être dans la commission
aussi. Dans le commerce artisanat et l'emploi.
Voilà. Très bien.
Alors, Denise Medina, enfin, j'habite Châteauneuf, mais mes associations se situent à Bar-sur-Loup. Et avec protection du patrimoine par mois, et avec Madame, qui est de Cossol, et d'autres associations, on s'est battu contre le projet à la Sarée de l'enfouissement des mâches vertes. Hein. On s'est battu aussi contre le projet d'installation d'une usine de boue, parce que le plateau de la Sarée est un plateau qui est. C'est une roche karstique, c'est très, très fragile, et il y a des ressources en eau qui sont à protéger. Je pense que si ce projet-là peut aider à protéger cette nature, parce que j'ai l'impression que la zone industrielle, maintenant, va faire monter l'autre.
C'est vrai que le PNR a aussi un rôle de protection, c'est vrai.
Donc là, ce serait vraiment important de protéger l'eau souterraine du coin.
Très bien.
Madame Pinel, Cossol et Antibes, le 4C4, Groupement d'Association des Français du site, des Atlantines, impliqués aussi dans la défense de l'environnement, sur le plateau de Cossol notamment. Voilà.
Et Madame Pinel connaît bien notre pays, parce qu'elle la défend ardemment.
Et au niveau du RAR, je suis responsable du service collecte et traitement des déchets au collège de Provence à Grasse.
Très bien. Et vous n'avez pas assisté à la sous-commission?
Non, c'est mes collègues qui ont assisté, c'est un collègue.
D'accord. C'est quelque chose de très important, on est bien d'accord. Jocelyn Paris.
Jocelyn Paris, donc directeur adjoint de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Qui est installé notamment sur le magnifique plateau de Calerbe, hein, au sol. Et j'anime la sous-commission risques naturels, pollution et autres nuisances. On s'est réunis justement à l'observatoire. Donc, par l'absence, c'est là, c'est pas ça.
Marie-Pierre Abidali, je suis chargée de mission environnement à la communauté de communes des Côtes d'Azur, particulièrement sur les thématiques de l'énergie et des déchets.
On est chez vous, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est vous qui nous accueillez.
Au 5e,
mais c'est pas
Marion Luigi, donc je suis responsable administratif de la communauté de communes des Monts d'Azur et j'anime la sous-commission aux déchets assainissement.
Voilà, Thierry Guéguen, donc je suis maire de Serranon et conseiller général du canton de Saint-Auban et en la circonstance vice-président du syndicat mixte CIPR.
Et Raphaël Bosti, donc je suis consultant à Aidater, le cabinet qui accompagne le syndicat mixte dans la concertation et la rédaction à la fois de la charte et la réalisation du plan parc qui va cartographier un petit peu les enjeux qui vont être relevés dans la charte. Et donc je m'occupe avec Jacques Carillo aujourd'hui, avec M. Guéguen et les binômes qu'on a composés, d'animer les commissions thématiques.
Voilà. Alors, premier propos, ni d'excuses pour le bug, parce qu'on va quand même appeler ça. qui a consisté à donner l'information et la confirmation de la réunion d'aujourd'hui très très tardivement. Hier soir, nous avions une séance de travail du bureau. On l'a dit, bon, on ne cherche pas à désigner des coupables, mais toujours est-il que le petit nombre de participants de cette commission aujourd'hui, alors que la seule sous-commission que j'animais moi et qui s'était passée à Rodignan, Mme Pinel était là, on était au moins aussi nombreux, sinon plus. Hein. Voilà, oui. Donc ça prouve qu'il y a eu un bug. Alors, on a promis que ça ne se renouvellerait plus, mais en attendant, c'est un peu dommageable d'avoir si peu de participants aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous, en tous les cas, très motivés et les animateurs de cette commission sont là, c'est très bien. Et on va vous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc Raphaël va faire le complément très technique de ce que moi je vais vous dire. On a un PowerPoint à vous expliquer. Alors pour tout vous dire, on a un PowerPoint qui reprend l'ensemble des choses qui ont été depuis le début historique de la mise en place du PNR, c'est-à-dire depuis 4 ans, où on a déjà une somme de choses qui nous étaient revenues à travers les premières réunions publiques, puis ensuite à travers, et là c'est vrai que ça s'était considérablement enrichi, à travers les réunions cantonales qui avaient été organisées, il y en avait eu 8, c'était Françoise Dubois qui les avait animées à ce moment-là, la pauvre elle est bien souffrante en ce moment et elle ne peut pas participer à ce travail-là. Et ce qui avait été depuis la matinée du 16 mars et avec toute la suite de l'après-midi qui avait été remarquable de travail, les quatre commissions qui s'étaient mises en place et qui avaient généré le travail des sous-commissions. Donc tout ça, c'est un ensemble d'observations, de considérations. Tout ce faisceau-là, il a été analysé, pris en compte par le cabinet d'Atter, Raphaël Bottier et Jacques Cario, qui ont fait tout un travail de présentation d'un dispositif qui est on en est là. Hein, on est aujourd'hui sur cette mission-là. On va voir ces deux éléments, ces deux volets dans notre réunion d'aujourd'hui. À peu près à temps égal, si vous êtes d'accord, pour qu'on mette bien en place le dispositif concret, pragmatique, qui est la recherche de pistes d'action, puisque dans un premier temps, le travail qui était demandé, c'était essentiellement un travail de diagnostic, un travail de recherche des problématiques, un petit peu la mise en place, la définition des enjeux, et derrière, dans cette recherche de pistes d'action, un deuxième travail d'approche qui sera le plus important, qui n'apparaîtra pas véritablement dans la charte, mais qui, la charte, ça consiste pas à faire un catalogue d'action, mais qui, la charte traduira toute la volonté que nous aurons tous ensemble mise en œuvre pour que on puisse avoir les moyens d'accomplir ces actions qui seront en faveur de ce territoire du PNR. Ce territoire du PNR, je vous le dis tout de suite, on aura à mettre en place un périmètre qui va être absolument essentiel parce qu'on nous a beaucoup interrogé sur la pertinence du périmètre et on a décidé hier de le faire sur le mode POS, PMU, SCOT, c'est-à-dire un travail assez précis à la parcelle pour les endroits où ça sera le plus sensible. Puisqu'on est bien d'accord de dire qu'on ne pourra pas mettre l'intégralité de certaines communes dans le dispositif PNR. Alors, c'est essentiellement les communes du Sud, hein, c'est-à-dire Grasse, Vence, même je crois qu'à Bar-sur-Loup, on n'aura peut-être pas à tout mettre, enfin, il y aura des considérations à voir. Et bien sûr, Côte d'Azur, les trois communes de Côte d'Azur qui ont, avec la zone industrielle, des éléments qui ne correspondront évidemment pas à ce qu'on peut avoir à mettre en place dans un PNR. Donc on va affiner tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'on peut... Enfin, Erwin, vous pouvez dire quelque chose?
Oui, c'est donc M. Guéguin a présenté un petit peu l'historique et puis le contexte actuel de la réunion. J'ai juste quelques compléments, donc rappeler qu'il y a eu une enquête auprès de 500 socioprofessionnels avec une centaine de retours. Effectivement, il y a eu 8 réunion régionale. Le forum numéro 1, qui était une réunion auprès des socioprofessionnels qui avait réuni 120 personnes environ. Le forum numéro 2, qui était un forum territorial, donc qui regroupait à la fois les habitants, les socioprofessionnels, donc c'était le 13 mars à Grasse. On avait environ 200 participants. La première série de commissions thématiques, l'après-midi du 13 mars, et puis les 13 sous-commissions qui sont déroulées entre-temps. Donc là, c'est sur les 4-5 derniers mois, il y a quand même eu plus de 1000 personnes qui ont été mobilisées autour de cette concertation. Ensuite, très rapidement, sur le calendrier, donc vous voyez qu'on est...
voilà, là.
On est aujourd'hui à la deuxième session de commission thématique.
Ça, c'était le 13 mars, d'accord.
Le 13 mars. Ensuite, on travaille aujourd'hui à la présentation d'une première trame de charte, qui deviendra une première architecture de charte. On présentera aux élus
ensuite,
du syndicat mixte. Pour aboutir à la troisième série de commissions thématiques qui, cette fois-ci, réunira un forum territorial, comme le 13 mars. Donc aujourd'hui, on est plus sur des commissions de travail uniquement. Le 13 mars, on avait à la fois la réunion globale, les réunions thématiques, et à la fin du mois de mai, on réunira encore une fois les habitants pour leur présenter l'architecture de Châte. Au niveau du travail des sous-commissions, donc, il y a entre-temps les sous-commissions, comme je vous le disais, qui ont travaillé sur la mise à jour du diagnostic, et puis sur l'actualisation des enjeux. Et suite à la réunion d'aujourd'hui, les sous-commissions se réuniront encore pour affiner les listes d'actions. Donc aujourd'hui, en fin de réunion, on va travailler un petit peu sur quelles sont les grandes actions à mettre en œuvre en fonction des objectifs qu'on aura repérés. Et là, ça sera affiner les listes d'actions et identifier les partenaires, les futurs partenaires du parc. C'est-à-dire pour chaque objectif opérationnel, chaque domaine d'action, quels vont être les partenaires que le parc devra mobiliser et devra d'ores et déjà mobiliser pour les alerter sur ces objectifs et les actions qui souhaitent être en place.
Voilà, donc le tableau, il faut le lire chronologiquement comme ça. Hein, on a fait ça, on est passé sous commission, on en est là, on va revenir sur ce travail-là pour après avoir la fin du dispositif que Raphaël vient d'exposer.
Donc, les objectifs de cette commission thématique, le premier point, c'est de questionner la trame de stratégie que nous avons réalisée à partir du travail qui a été fait en commission et sous-commission. Vous le verrez, on a uniquement traduit les enjeux en objectifs. C'est-à-dire, c'est juste une question de reformulation, le contenu n'a pas changé. Donc, il y a trois questions. Est-ce que les enjeux qui ont été identifiés collectivement ont bien été retranscrits? Est-ce que quand on a réécrit on est passé les enjeux aux objectifs, on n'a pas oublié un élément, ou est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair? Enfin bon, il y a une question de là, on va essayer de réécrire, bien ajuster les objectifs.
Alors on ne va pas tout changer non plus,
non.
Hein, c'est de l'ajustement. Hein,
c'est de l'ajustement. Le deuxième point, c'est est-ce que tous les objectifs opérationnels qui ont été retenus sont suffisamment importants pour figurer dans la stratégie? Puisqu'en fait, nous, on n'a pas fait de travail sélectif. On a tout mis. On a juste dit, bon, il y a 10 objectifs opérationnels qui vont dans tel objectif stratégique. On va dire, préserver les paysages, c'est un objectif stratégique. Et dedans, il y a, par exemple, définir ou connaître les paysages. C'est un objectif opérationnel. Donc, nous, on a pris tous les objectifs opérationnels. On n'a pas été sélectif. Parfois, il peut y avoir des enjeux qui, finalement, n'étaient pas si importants. Et du coup, ça amène un objectif qui est pas vraiment prioritaire et qu'on va pouvoir enlever. Donc c'est faire aussi le tri entre ce qui est vraiment important, ce qui est moins important. Et puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été oubliés? Est-ce que dans le travail sur les enjeux, là quand on regarde maintenant, on a une stratégie qui commence à être un peu cadrée, est-ce qu'il n'y a pas des objectifs qui ont été oubliés et qui pourraient répondre à des enjeux de territoire importants?
En principe, non.
En principe, ça ne devrait pas être en tout cas majeur, on l'espère. Et puis, le deuxième point, c'est ce que vous disiez, Monsieur Guéguen, donc identifier pour chaque objectif opérationnel là où les actions majeures pourront y participer. Aujourd'hui, on ne va pas s'amuser pour chaque objectif à dire à faire un programme d'action pour les 12 prochaines années. Mais c'est dire cet objectif-là, comment il se traduit sur une action qui va vraiment permettre d'être structurante pour l'atteinte de cet objectif. Donc c'est en gros, est-ce qu'il y a un schéma de développement économique à mettre en place sur la thématique économique? En gros, c'est ça, c'est une action vraiment dans le plan. Donc, rapidement quand même, pour revenir sur le comment on a transformé le premier travail en stratégie. Donc, on est parti des tableaux AFOM, des listes d'enjeux.
chaque tableau femme et liste d'enjeux étaient au sein d'une thématique et d'une sous-thématique. Donc, en gros, ce qu'on appelle maintenant l'axe prioritaire, c'est la grande orientation. C'était par exemple énergie, ça c'est un axe prioritaire. L'objectif stratégique, c'était au sein de cet axe prioritaire, axe prioritaire, c'est l'intitulé de la commission thématique. Il y a quatre commissions thématiques. En gros, il y a 4 à 5 axes prioritaires. Les objectifs stratégiques, ce sont au sein de la commission qu'on va travailler aujourd'hui, il y a l'énergie, l'esprit naturel, eau et déchets. Ce sont 3 objectifs stratégiques. Et au sein de ces objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels, qui sont les enjeux traduits en objectifs opérationnels. On a vraiment recalé ce qui avait été travaillé sur une stratégie. Donc, pour faire un point sur les 5 grands axes stratégiques qui ont émergé, donc on a connaître, préserver, transmettre les patrimoines naturels et les paysages locaux. Donc ça c'est la commission thématique numéro 1 qui se réunit actuellement. Nous on va travailler sur l'axe stratégique numéro 2, donc gérer les ressources naturelles et maîtriser les risques naturels, qui est encadré en rouge.
C'est ça qu'on a encadré en rouge.
Ensuite, la commission thématique numéro 3 a été scindée en 2 axes, puisqu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait dedans tout le travail sur les patrimoines et la culture, qui était un bloc, et puis le travail sur l'aménagement du territoire et les déplacements, qui était un autre bloc. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, au lieu d'avoir 4 axes, on en a 5. Et donc le 5e axe, qui est celui du développement économique, qui correspond à la commission thématique numéro 4.
Alors et actuellement, en fait, on le dit rappel, il y a 4 commissions qui travaillent, sachant que la commission 3 travaille sur ces deux approches-là. Et nous, aujourd'hui, on va considérer que notre thématique est nous. C'était pour vous expliquer. Ouais.
Voilà. Donc, on va passer pour le travail sur la stratégie au document Word. Donc, du coup, comme on a une impression, je vais vous l'afficher. Ce ne sera pas forcément très lisible là, mais on pourra le lire sur le. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des modifications en direct. Comme ça, toutes les remarques seront prises en compte.
Alors, on est bien donc sur l'axe 2, gérer les ressources naturelles et maîtriser les risques naturels. Alors, on a 3 sous. Sous pavé qui sont effectivement les orientations stratégiques. Alors ce que je vous propose, c'est que pavé par pavé, on lise, je vous lise à voix haute, ça prend 5 minutes, l'ensemble des objectifs opérationnels et qu'on les commente in fine parce que comme ça, il y a des choses, il faut aller au bout de la liste en fait pour voir si les choses sont correctement écrites ou s'il y a effectivement des manques ou des petites rectifications. Alors donc, connaître et suivre le fonctionnement hydrologique et hydrographique du territoire et la qualité des eaux. Donc, observatoire du territoire à mettre en place. Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité. Coordonner la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'amélioration de l'assainissement collectif et non collectif à l'échelle du territoire. Participer à la collecte et au tri des déchets à l'échelle du territoire. On pourrait rajouter la gestion. Coordonner l'harmonisation de la communication et des modes de collecte des déchets au niveau du territoire. Encourager les pratiques de maîtrise de production de déchets. Sensibiliser des enfants, habitants et visiteurs du territoire à la problématique de la gestion des ressources en eau et des déchets. On fait un pavé et puis on passe au pavé d'après ou...
On peut travailler sur celui-là parce que c'est ouais. les thématiques sont quand même assez
séparées. Ouais, c'est pareil. Voilà. Donc par rapport à ce que Raphaël expliquait dans la méthodologie, le cabinet d'Ather a donc repris l'ensemble des éléments, hein, donc historiquement, depuis le début, les 2 premiers forums, le travail des sous-commissions, ils ont traduit cet aspect de la gestion durable en ce qui concerne l'eau et les déchets sur ces 7 objectifs opérationnels. Voilà, alors est-ce que la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est, ça vous semble à l'évidence répondre aux problématiques que le territoire contient? Est-ce qu'on voit déjà là se dégager des pistes qu'on pourra transformer en pistes d'action, même si elles sont que schématiques au départ?
Mais là, sur participer à la collecte au tri des déchets, en fait, la collecte et le tri des déchets se fait sur l'ensemble du territoire. Ça serait plus approfondir en développant voilà, d'autres modes, mettons la collecte peut-être des déchets verts pour du compost, ou aller plus loin dans la collecte.
Donc ce serait compléter le travail actuellement réalisé sur le territoire en matière de tri. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui se font en la matière sur l'ensemble du territoire. Donc le parc, il arriverait plus en complément ou en démarche innovante.
Voilà.
C'est ça?
D'accord. Parce que le tri se fait partout. Bon, après, il y a quand même des déchets de tri qui
font bien. En lisant, effectivement, c'est ce que je me suis dit. On avait dit qu'il y avait déjà des acteurs. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a déjà des acteurs qui sont présents et que le parc ne va pas forcément s'impliquer de manière exhaustive, qu'il va plus arriver en complément, quoi.
C'est surtout la coordination, l'harmonisation, surtout le point qui vient après, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que là c'est listé, comme on l'a dit, hein. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui sont assez proches les unes des autres. Mais si vous pensez qu'il y a des choses qui sont vraiment redondantes, mais d'une manière certaine...
On peut éventuellement dire coordonner la collecte et le tri des déchets à l'échelle du territoire, ainsi que l'harmonisation, et on fait un seul objectif opérationnel pour...
Voilà, parce qu'après, il y a encourager les pratiques de maîtrise de production des déchets, donc là, on englobe le compostage, donc
c'est... Moi, je vois quelque chose qui n'est pas précisé, qui manque, qui est très important pour moi, c'est la sensibilisation ou pour la réduction des déchets, pas pour la gestion, mais la réduction des déchets à la source. Donc une sensibilisation, une éducation à la réduction des déchets. Autant
on avait mis sensibiliser les enfants habitants qui donnent un peu de la gestion et de la maîtrise.
Sinon, en reformulant, encourager les pratiques de maîtrise de production des déchets pour ne pas ajouter un terme
Ça serait pas mal de le voir sous un angle un peu plus global. C'est-à-dire dans une gestion et des déchets, et de maîtrise de production de déchets à la source, de protection de l'environnement en général, de protection de la nature, la faune, la flore.
Mais ça, on le répète en fait, la question de la sensibilisation, on le répète pour chaque sous-thématique. C'est-à-dire que par exemple sur l'environnement, on va dire sensibiliser les enfants au patrimoine naturel du territoire. Il vaut mieux le rappeler dans chaque...
C'est pas que les enfants. Hein.
Non, mais je disais, ça c'est un exemple.
Oui.
Mais effectivement, donc on peut ajouter...
maîtriser les productions de déchets,
c'est le plus important, moi, pour moi.
Oui, alors ça c'est une constante dans les approches que les collectivités en charge de ces problématiques de déchets ont. C'est sensibiliser au niveau par exemple des emballages, tous les producteurs, les grandes surfaces, etc. Parce que c'est là où ça pêche dès le départ.
Quoi. Hier dans cette commission, on a évoqué justement le fait de voir s'il n'était pas possible à l'intérieur du parc d'inciter les commerçants locaux, voilà, à vendre à la poule,
au poids,
éviter les emballages,
au poids,
voilà, avec en distribuant peut-être des emballages recyclables.
Donc ça serait d'encourager les pratiques de maîtrise de production des déchets.
Mmh. Oui.
Okay. Ouais. Par contre, peut-être effectivement,
ce qui peut se faire à l'échelle du territoire, parce qu'après le reste c'est des position au moins départementale, sinon nationale. Quoi. Mais on peut adhérer au même sujet d'inquiétude, hein, tout à fait.
Maintenant, on marque sensibiliser, mais je crois que c'est plus fort que ça, parce que sensibiliser, il faudrait aussi former les gens. Quelqu'un qui passe et qui dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait, qu'on nous fait, parce que c'est vrai que sensibiliser, ça va être un bout de papier, les gens vont être de côté. Donc il faut peut-être mettre l'accent encore une fois sur...
Une éducation.
Alors, pour expliquer le fonctionnement, hein, je parle sous votre couvert, mais À part quelques communes de l'Ouest, toutes les communes du territoire du PNR sont regroupées dans le CIMAEC. Le CIMAEC et le SMED. Le CIMAEC pour la collecte dans notre secteur, le SMED pour l'ensemble du traitement des ordures ménagères. Donc, il y a un vrai partenariat qui a déjà été établi. Il y a un travail qui a été fait par Kerbanis et Chloé Olmeta dans les écoles pour justement, parce que c'est pour ça qu'on fait référence aux enfants, parce que encore une fois, on compile les choses qui ont été annoncées, et parmi les choses qui ont été annoncées et faites, il y a ce travail auprès des enfants, des scolaires, des cantons de Saint-Aubin et de Courcegoulle. Mais il faut continuer, je veux dire, c'est souvent par les enfants que l'information et la sensibilisation des parents arrivent. Et vous avez raison, le terme peut-être il peut être encore plus fort que sensibiliser.
Là, on a évoqué hier justement la possibilité de remettre peut-être en place des ambassadeurs du tri, mais qui en même temps forment au compostage individuel, pour surveiller,
sur le territoire.
Voilà, des compétences beaucoup plus larges sur le territoire, peut-être même contrôler aussi à certains endroits la qualité des eaux.
Alors, je l'indique donc à Raphaël, puisqu'il il faisait allusion tout à l'heure, le SMED va donc être un partenaire identifié clairement à ce niveau-là.
Parce que s'il y a des choses intéressantes qui se font dans cette zone-là, ça peut-être se faire aussi ailleurs. Ça peut inciter aussi.
On va tâcher d'être exemplaire, bien sûr. Voilà. Ça serait idéal.
Ça pourrait être
une excellente.
C'est le syndicat mixte d'élimination des déchets du département.
Ok. Je pense qu'il y a Civadès aussi pour vous.
Alors, le Civadès, c'est ce que je dis, c'est les communes de l'Ouest. C'est Spéracède, c'est Saint-Vallier.
C'est Gabrice
et Saint-Césaire. Voilà. Et Grasse, enfin, Grasse, dans le périmètre du PNR, il y a pratiquement pas d'habitants. Quoi.
Et un point, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de valorisation des chiens?
Le compostage, ça peut être de valoriser in fine dans l'agriculture.
C'est pas une valorisation, c'est encourager les pratiques de maîtrise de production.
Les valorisations, c'est le recyclage, la mise en valeur de certains déchets. Je faisais allusion à ce qu'on avait pensé une fois par rapport aux communes forestières, à la valorisation peut-être du bois, des déchets primes, qui peut être utilisé en. C'est l'idée qui vient.
Alors, c'est vrai que sur le déchet vert, il peut y avoir une valorisation
qui permet d'avoir un retour.
Alors, il se trouve qu'il y a dans le canton de Saint-Auban une structure d'insertion qui s'appelle La Forêt et qui vient de se doter d'un broyeur à branches, branchettes, etc., type élagage, mais costaud quand même, qui se propose de traiter les déchets verts pour le transformer, donc le valoriser en compost. Ils sont au tout début, hein, ils ont eu l'opportunité de faire un achat intéressant d'occasion et ils démarrent juste l'affaire, quoi, parce qu'il y a aussi un aspect réglementaire, hein, quand on fait du compost, c'est plus pareil, hein, parce que comme son nom l'indique, ça reste un déchet, hein, déchet vert.
C'est dans quelle commune l'association?
Elle est installée à Rondon. Mais elle est sur le territoire du canton.
C'est-à-dire, on avait évoqué la production de compost normé. Ça aurait été bien de pouvoir y mettre une norme et que le PNR puisse produire du compost de qualité.
C'est sûr que dans un compost dans lequel on rajoutait, par exemple, je ne sais pas moi, de la tour ou des éléments. Telles que la paille ou des choses comme ça, c'est très différent de partir d'une base de déchets en termes de valorisation qui sont issus des ordures ménagères grises. Là, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Hein. Ça ne se passe pas du tout de la même manière.
Si on revient à des objectifs opérationnels, donc je les ai un peu réécrits pendant qu'on discutait, sur la sensibilisation, donc on peut parler de sensibiliser, éduquer, former les enfants, habitants et visiteurs du territoire à la problématique de la gestion des ressources en eau et de la maîtrise des productions, tri, collecte des déchets. Donc, c'est un peu global, mais on fait le tour des thèmes qui ont été abordés.
Hier, on avait parlé aussi à Bar-sur-Loup de favoriser le compostage individuel.
Ouais.
Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, parce que
c'est
vrai que dans cette région-là, il y a énormément d'espaces verts. Les gens peuvent très facilement faire
Et là, il y a deux méthodes. Il y a ou bien la mise en place d'un composteur tout fait, ou bien enseigner aux gens comment réaliser leur propre composteur, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué.
Et puis, il y a une société, on en a parlé aussi, il y a beaucoup de gens qui brûlent, coupent l'herbe et puis après ils font sécher et ils brûlent. Et donc, les gens ne sont pas tellement bien informés, à savoir que c'est peut-être plus embêtant, c'est quand même embêtant de brûler parce que ça brûle, etc. Alors que si on propose que ce sèche l'herbe, ça peut être un avantage. Je crois qu'il y a un manque d'informations. Moi-même, j'ai ce goût.
Par rapport au compostage individuel, pour le syndicat qui est venu sur les déchets, je pense qu'ils ne sont pas accessibles, puisque ils peuvent récupérer un maximum.
Oui, ben on l'a évoqué hier justement, et en fait ça ne posera pas de problème. Donc c'est vrai que nous, on avait un peu cette inquiétude là, vu qu'il va y avoir le CVO. Et le centre de valorisation organique. Et justement, on se demandait si le fait de leur enlever des déchets verts à la base, ça risquait de leur poser un problème. Et là, hier, justement, il y avait M. Perrin de l'ARP qui s'occupe de tous les déchets. Et lui, donc il a constaté sur plusieurs endroits qu'en fait, le tonnage de déchets qu'on va leur enlever, ça ne posera pas de problème du CTO.
Oui, alors c'est plus un problème technique qu'un problème de tonnage, c'est dans la mesure où la valorisation effectivement nécessite une partie liquide, on va dire. Et c'est en fait dans le compost, à leur niveau, au niveau des 40 000 tonnes qu'ils vont traiter, c'est le déchet vert qui va faire cet apport parce que ça ne marche pas le compost s'il n'y a pas cet élément liquide. S'il n'y a plus du sec, ça ne ferait jamais de compost. Pour l'humidité du compost, il faut des déchets verts.
Oui, mais par rapport au tonnage qu'on va leur apporter, ils peuvent après compléter en mettant des...
ils sont vraiment en recherche de déchets verts, mais à ce titre-là.
Mais aussi des déchets organiques au niveau, oui. Ils peuvent collecter au niveau des hôpitaux, mettre des containers spéciaux pour récupérer pas mal de déchets.
Vous en parlez à mon président, il est pas pour le compostage individuel, clairement.
Alors, nous qui sommes membres du CIMAEC, on est très fous parce que c'est tout un tonnage qui n'est pas facturé aux administrés de notre secteur. On est bien d'accord, hein, à Garce comme ailleurs. Hein, donc, tout ce qui ne va pas dans le circuit, c'est pas facturé. Hein.
Plus ça peut
être... Et Dieu sait que ça commence à être lourd, hein, la taxe à ordures ménagères.
Plus ça fait en petite... c'est plus intéressant de faire à la base. Il y a moins de transport, il y a moins de tout.
Ah non, ouais.
Moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit sur le brûlage, les déchets verts. Je trouve ça très très dommage. À partir du moment où on a le droit de faire des feux, il y a des feux de partout. Ouais. Des gens qui ont des milliers de mètres carrés souvent. Bon, ça ne gêne pas un petit point de compost dans son terrain ou amener à ce moment-là dans les déchets verts. Je pense qu'il faut vraiment inciter les gens à ne plus brûler les déchets verts, soit du compost individuel, soit du compost collectif.
Mais c'est la solution facilitée, c'est vrai.
Mais bon, c'est vrai que l'être humain est le feu, il y a toujours eu des relations un peu bizarres.
Ils sont en train de se mettre en place l'association La Forêt. Ils proposeront de venir sur place. Bon, ça sera pas gratuit, c'est sûr, mais ils proposeront de venir sur place pour récupérer tout ce que les branches mortes, les choses qui sont un peu plus difficiles à composter. Et eux, ils vous feront le broyage. Ils peuvent vous laisser le broyat chez vous pour améliorer votre compost.
Oui, mais le broyat,
ils peuvent l'emmener aussi chez eux et l'utiliser. Voilà. Et c'est vrai, c'est un plus dans la qualité d'un compost, c'est un plus d'avoir ces éléments ligneux sous forme de broyat.
Je pense que si je
en bord du bois, elle se réveille.
Non, c'est pas du tout ça. Je pense que pouvoir faire du compost pour que les gens individuellement et particulièrement fassent du compost, il faut vraiment qu'il y ait une volonté individuelle, qu'il y ait une implication, il faut qu'ils sachent le faire. Faire du compost, on dit que c'est facile, c'est pas facile. Faire du bon compost, c'est très difficile.
Donc je pense que la quantité que les gens vont vouloir faire, ils vont faire du compost, ils vont pas mettre par exemple la viande, ils vont pas faire du compost très compliqué. Donc ça va être des toutes petites quantités. Et je pense que ça va pas. Non mais je suis d'accord, mais je pense que la quantité qui va être, même si on incite les gens à le faire, il y en a très peu qui vont le faire déjà. Ils vont être très motivés, mais ça va faire des toutes petites quantités. Donc finalement, s'il y a une grosse organisation après au niveau du SMED pour réellement collecter les matières organiques et faire du compost normé, etc. Ça va représenter, je pense, quand même une quantité relativement faible des gens qui vont vouloir s'impliquer.
Voilà.
Parce que bon, des gens vraiment conscients de ce que ça représente, le compost, des gens qui le font, il y en a plein. Enfin, donc on ne va pas changer les mentalités comme ça. Moi, je pense que ça va rester des
meilleurs termes. Par exemple, sur Carros, mais par contre, la population,
ils font pas du compost, donc il y aura toujours cette apport de ces gens. Mais oui,
ils produisent beaucoup moins de déchets verts aussi.
Il y a des déchets de cuisine, c'est ça qui intéresse.
C'est vrai que
l'idée,
c'est pas d'encourager le compost sur le balcon. Hein. L'idée, c'est quand même que les gens qui ont de l'espace, ils puissent sans trop s'embêter la vie, mettre leur gazon, mettre leur branchage, un petit peu d'élagage. C'est ça. Et puis ils y rajoutent. Mais alors, je rejoins Céline. C'est vraiment à la marge, quoi, ces quantités-là. Les grosses quantités qui manqueront jamais en semaine, c'est ce que produisent les communes, par exemple. Donc, les espaces verts, etc. Donc, ça suffit. Ça, à mon avis, ça leur suffira largement si on y rajoute ce que Marion a indiqué, c'est-à-dire des éléments issus des hôpitaux ou des grosses collectivités.
Oui, est-ce que tout le territoire est couvert par le ramassage et le compostage à grande échelle collectif?
Ces vélos dont on parlait hier soir n'existent pas encore.
C'est
pour l'instant, on met tout à la glacière, en vrac.
Mais le CDO, il interviendra sur l'ensemble du territoire ou
sur 80% des communes,
mais de toute façon, il y aura le deuxième CVO de la Roquette et le CVE de Pélomar.
Donc ça, justement, on disait que c'était bien de le retraduire dans la charte, c'est qu'à terme, tous les déchets du parc seront traités par valorisation organique. Donc toutes les environs ménagères brutes, c'est quand même un abus pour le
parc. Et la question, c'est est-ce qu'il y a besoin d'impliquer et de sensibiliser les gens entre le moment où ils produisent leurs déchets organiques, je ne sais pas comment ils font pour les mettre quelque part, je sais pas, ils les récupèrent, est-ce qu'il n'y a pas quand même un travail à faire?
Voilà, mais c'est pour ça qu'on disait que si les ambassadeurs du tri pouvaient être polyvalents, et justement, à la remise, si après on achète des éco-composteurs, à la remise de l'outil, il y a une première formation, et puis après il y a un contrôle régulier, je ne sais pas, tous les 3 mois, pour juste aller voir, redonner des conseils pour...
C'est ce qui se fait sur le CIVADES, c'est bien.
Ouais.
Mais si on arrive à faire ce que se fait sur le CIVADES, ça serait parfait.
Comment ça se passe au niveau du CIVADES? Ce sont des.
Mais en fait, en fait, les gens sont volontaires pour acheter un composteur autour de 20 euros. Et ensuite, il y a les ambassadeurs du tri qui nous accompagnent dans la démarche pour faire le compost qui régulièrement vont retourner voir les habitants.
Et ces ambassadeurs du tri, ce sont des bénévoles? Et combien de personnes à peu près qui travaillent là-dessus?
Ils sont 10 sur les 12 communes.
D'accord. Donc a priori, il n'y a pas forcément un positionnement du parc sur ce travail-là. Quoi.
Là où le CIVADES le fait déjà, c'est pas la peine.
Non, c'est ça. C'est ça.
Puis ça fait 4 communes, 5 communes sur les 47.
Et est-ce que le SMED, sur le CVE, envisage de mettre en place aussi une action de sensibilisation?
Ben, je sais pas. Hein, le SMED, il tire la langue au point de vue des finances. Donc,
éventuellement,
le parc pourrait relayer ça, et puis ça pourrait se passer dans le cadre de contrats type CAE. Ben, ça a bien démarré avec les emplois jeunes. C'était une des premières pistes des emplois jeunes, mais les ambassadeurs du tri, il y a longtemps. Hein. Mais on est vieux, c'est normal.
Il faudrait prévoir aussi, très concrètement, peut-être des containers aussi pour les déchets verts.
Mais c'est ce que
parce qu'il y a des actes en déchets qui actuellement et tout le monde n'a pas envie de mettre ses déchets verts dans son véhicule et de les apporter.
C'est pour ça, comme il n'y a pas de collecte, donc après, parce que bon, logiquement, les gens qui produisent des déchets verts, souvent ils ont un peu de terrain où ils peuvent produire du compost chez eux, donc ça évite d'organiser une collecte.
pas tous sont
ici. Donc après, on peut aussi trouver des sites sur la commune où voilà, ceux qui ne veulent pas leur faire être dans le jardin, ils peuvent les emmener dans un endroit de la commune.
Pour... Ça veut dire qu'il y a une question en fait de différencier l'action selon le type de territoire. C'est-à-dire que si on dit que c'est un territoire très rural, il n'y a pas suffisamment de densité de population pour mettre des containers. L'intervention va être différente. Est-ce que le parc peut avoir un rôle de dire, à l'échelle en fait, intercommunale, ben voilà, sur tel territoire, il faudrait plutôt avoir telle approche et de coordonner un petit peu cette action. Je ne sais pas.
Dans les zones urbanisées ou dans les centres villages, ce serait certainement intéressant d'avoir des containers pour les déchets organiques, ménagers, etc.
Ah, après, on a parlé de zones de compostage, de zones collectives. Il y avait des endroits qui pouvaient être identifiés pour produire justement du compostage à plus grande échelle.
Alors, on peut considérer que c'est le point 4 qui est très très générique, qui dit participer à la collecte et au tri des déchets sur le territoire, mais c'est plus approfondi que ça. En termes d'action, en termes d'action, il y a tout ce qu'on vient de dire qu'il faut mettre.
Je voudrais rebondir un peu et quand vous disiez. Monsieur disait qu'il fallait réduire vraiment la lavage, essayer de réduire la lavage, c'est vraiment l'idéal. Et vous disiez que le compost sur le balcon, c'est pas bien. Hier, il y a monsieur Benpot qui expliquait qu'à certains endroits ça se fait, c'est-à-dire que la ménagère, plutôt que de jeter son truc à la poubelle, vient à la vie composteur sur le balcon et elle vit là. Alors moi, je trouve que c'est une aussi, c'est pas la solution, bien sûr, parce que ça ne peut pas. Ça ne peut pas remplacer tout ce que vous avez dit, qui est beaucoup plus important. Mais c'est vrai que si individuellement on arrive à faire quelque chose, parce que je sais que la ménagère, elle ne va pas trier pour aller porter à la poubelle, elle met dans la poubelle. Voilà. Alors que si elle a quelque chose, un petit
bac
à compost, c'est pratique. Quoi. Maintenant, est-ce que c'est faisable?
Je ne disais pas qu'il ne fallait pas le faire, c'était pour trouver une façon de compenser. Le refus du président, c'est Tornator, vous voulez ? Tornator. Le président Tornator qui disait ne faites pas du compostage individuel parce qu'on en a besoin pour la valorisation de nos déchets. Et je disais, alors, au moins qu'on laisse les gens qui sont en ville et qui ont fait le balcon pour faire le compost, laissons-les apporter leurs déchets organiques pour la valorisation et tout le reste de l'espace rural, faisons-le.
Mais ça prend notre tri.
Oui, mais vous savez qu'ils en ont vraiment besoin pour la valorisation, pour toute ce volume humide. C'est indispensable pour faire le compost. On ne peut pas le retirer. À un moment donné, il faudrait arroser. C'est incombe d'arroser.
Il sera valorisé de toute façon. Ce
n'est pas seulement l'humidité, c'est l'azote aussi.
Aussi, absolument. Il faut cette décomposition de cette matière organique. On ne peut pas s'en passer.
Oui, c'est l'ensemble de la propriété qui ont pris un compost pour l'ensemble de la copropriété. Et donc, même en immeuble, ils arrivent à faire leur compost. Mm-hmm. C'est le gardien qui vient.
Mais vous le récupérez, le compost.
Non, c'est eux. Après.
C'est eux qui le récupèrent.
Bien sûr.
Ils ont des parcs.
Mais tout bâtiment a un petit morceau de jardin, oui. Hein, tout bâtiment.
Mais non, pas à Gatière, pas non. À Carrosse. Ni au Broc, c'est dans les parties très, très regroupées en termes d'urbanisation. Voilà. Bon, ça fait des pistes d'action. Là, et
c'est pour ça qu'on vous demandait si. C'est vrai que comme il y a plusieurs syndicats qui interviennent, l'harmonisation risquait peut-être d'être difficile, mais pour le CIVADES, c'est vraiment déjà très très bien organisé. Donc si les autres syndicats arrivent à se rapprocher du CIVADES, et en fait il n'y en a plus qu'un, parce que le SMED gère quasiment la totalité après des communes, il n'y a plus que Vence et Brocarot qui vous avez sur Nice. Non, c'est la capitale.
Enfin, en tous les cas, le parc peut être tout à fait partenaire et prendre une partie de l'information, de la sensibilisation, voire même de l'approche avec les ambassadeurs du tri, en relais territorial du SMED, par exemple. Pourquoi pas. Si on en parle à Robert Velay, il ne sera pas contre cette affaire-là et que sur cette partie du territoire, ça soit le relais du SMED, en tous les cas.
Et puis justement, pour éviter les gens qui brûlent, si on met un numéro de renseignement, les gens souvent ils appellent pour savoir à partir de quelle date ils peuvent brûler, mais quand ils appellent, on n'est rien à qu'il y a peut-être d'autres solutions. On peut passer voir pour insister sur l'information. Parce qu'il y a des gens qui trouveront ça en allant faire leur course ou autre, leur prospectus. Moi, je ne sais plus ce que dire. Mais c'est vrai qu'à Antibes, par exemple, la CASA proposait des conteneurs pour des jardins, du style conteneur à ordures, et pour le sol médic et tout le suivi de l'utilisation, ben, il n'y a pas eu beaucoup de monde pour eux. Ils sont restés pendant des mois dans le hall de la maison des associations. Je ne crois pas qu'il y ait eu un succès pour rien. Parce que c'est les petits jardins où les gens sont dit faut le trimballer, comment on va faire, c'est trop compliqué, alors on met le sac poubelle avec ses déchets verts, ramassés par les ordures ménagères et trier à l'usine d'incinération.
Parce qu'il faut que ça soit. Il faut que ça soit suivi d'une formation.
Est-ce qu'on peut reformuler du coup l'objectif opérationnel qui concerne cette thématique-là, on s'entend
en une seule ligne.
Donc c'était coordonner la collecte et le tri des déchets à l'échelle du territoire. Donc je crois que là-dessus on est d'accord. Ainsi que l'harmonisation de la communication, peut-être plutôt de l'information du coup, et de la formation. Puisqu'il y a une question de formation. Donc ça serait plutôt information et formation sur les modes de collecte et de compostage des déchets.
Voilà. Sur
les modes de collecte et de compostage des déchets. Je veux dire tri aussi, en fait. Collecte, tri, quoi, je pense qu'il ne faut pas.
Une valorisation.
Que tri ?
Une valorisation.
Oui, enfin, oui ça va ensemble. Hein.
Collecte, tri, compostage, valorisation.
Le tri, c'est important, le tri, c'est actif, qu'on soit formé à ça. Oui. Parce qu'on a tous été confrontés. Hein, on a un truc, qu'est-ce qu'on fait, dans quel. Qu'est-ce que ça
se passe ? Vert, jaune, vert, bleu.
Si jamais.
Et
jamais
ça évolue en plus. Mais
oui, ça évolue, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ils prennent des sacs plastiques d'autres noms. Donc, c'est bien qu'il y ait une formation.
Par exemple, le SMED ne fait pas trier les cartons. Le carton, ça reste un déchet normal. Alors que le CIMADES trie le carton.
Le CIMADES, c'est une plastique. Donc,
après, juste pour terminer, il y avait une idée aussi qui avait été donnée, c'est l'identification visuelle. C'est-à-dire, est-ce que le parc ne pourrait pas avoir un rôle pour intervenir auprès des syndicats et dire qu'il faut mettre des conteneurs de la même couleur ou une signalétique, une charte.
Ça, c'est important. Et une même signalétique, surtout pour les conteneurs, en général, ils ont chacun leur couleur. Mais,
ça, c'est plutôt une action, quoi.
Mais... voilà, les mêmes panneaux de signalisation. Et puis après, sur les sites touristiques, on avait évoqué voilà, de mettre en place le tri sur les sites touristiques à des endroits où c'est vrai que il y a autour des lacs, où il y a plein d'endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde et il n'y a qu'une seule poubelle. Donc c'est dommage, souvent les gens, ben, ils emmènent leurs canettes.
Et on ne voit pas aussi les petites communes, étant donné qu'on ne voit pas sur les mêmes filières de traitement, ils ne traitent pas les mêmes choses, donc là, on ne pas les mêmes.
Ah mais ça va peut-être s'harmoniser avec la fermeture de la glacière et peut-être un.
Ben, sur le tri, ça ne changera pas. Si la DES recycle les fils plastiques et les cartons, cale, mélange le papier, ben, chaque commune le trie différemment. Donc,
ouais. Mais ça serait bien d'arriver à.
Le centre de tri n'est pas le même derrière, on ne pourra pas si même.
Oui, c'est sûr. Mais bon.
Parce que si le SMED arrivait à trier les. Enfin, c'est une aberration de pas trier les cartons.
Oui. Ça ne pourra pas être fait dans les 2-3 ans, quoi. C'est une démarche à court terme.
Il faut intervenir plus sur le traitement final pour après pouvoir appliquer la signalétique. La signalétique, elle viendra que quand on sera tous capables de traiter de la même manière les déchets.
Je vous lâche. Le problème pour le SMED, c'est que affiner le tri en mettant une ou deux catégories en plus, c'est des collectes supplémentaires sur un linéaire de route énorme. Quoi. Et c'est ça qui plombe le budget. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est vrai que pour l'instant, le budget ne permet pas de faire une ou deux tournées supplémentaires qui nécessitent du personnel, camion, gasoil. Quoi.
Oh, mais il y en a qui retrient le papier, le carton, mélangé avec les autres emballages, ça dépend après de
tri derrière.
Si Si le centre de tri est performant, ça diminue les collectes aussi.
Ouais, j'espère que le CVO sera performant.
Est-ce qu'on peut passer, je ne sais pas, mais à la thématique de l'assainissement, pour avoir un petit peu la même discussion sur l'assainissement. C'est un objectif opérationnel qui est assez général, donc coordonner la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'amélioration de l'assainissement collectif et non collectif à l'échelle du territoire. Sur l'assainissement collectif, au niveau des structures et de la couverture du territoire, il y a quelle part à peu près du territoire? Je ne sais pas si quelqu'un qui est un petit peu spécialisé dans...
On a des soucis parce qu'il y a un certain nombre de communes qui n'ont pas d'assainissement collectif pour leur partie village. Et quand on en a fait le bilan et qu'on regarde ça du côté du financement avec l'Agence de l'eau et le Conseil général, on part en courant, hein, parce que ça fait des millions d'euros à mettre en place, sachant qu'il y a la moitié des communes qui sont sans station d'épuration digne de ce nom.
Dans l'ouest, dans le
canton de Saint-Auban et peut-être un peu dans le nord.
Alors, il y a la technique des filtres plantés qui est très économique. C'est plus économique que station d'épuration normale. Classique.
Comment vous dites ?
Des filtres plantés, des phytoépurations. Phytoépuration, je crois.
C'est réseau pur. RHI.
C'est quoi ? C'est comme le lagunage ou choses comme ça pour la culture ?
Alors, le lagunage, il y a l'eau. C'est une lagune, en fait, il y a l'eau qui a la vue. Mais la phytoépuration, c'est. Il n'y a pas d'eau en surface, c'est des filtres qui sont plantés avec des plantes et l'eau elle circule dans les filtres.
C'est derrière un décanteur digesteur assez compact et c'est la façon de traiter le rejet de l'eau dans le milieu naturel.
D'accord. Et il y a déjà des.
Il y a beaucoup de communes.
Il y a plein d'endroits.
Il y en a trois qui sont construites cette année. Donc, Saint-Auban-Aiglun, c'est bien parce que c'est sur l'Estéron, donc c'était un.
Ah, bien l'Estéron.
Oui, c'était un gros point noir quand même.
Et au niveau de l'assainissement non collectif, il y a déjà du travail qui a été fait là-dessus ou...
C'est pareil, cette technique-là, elle peut être utilisée aussi, nous, on l'a fait pour nous. C'est efficace aussi pour
nous. C'est une technique qui peut être utilisée individuellement.
Oui.
Alors bon, il faut rappeler quand même le contexte réglementaire dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA, comme on dit en temps jargon, a donné comme date butoir 2012, et en 2012, il y aura la nécessité pour les maires d'établir des contrôles puisqu'ils vont devenir responsables de la police des eaux et des conditions d'assainissement de tous les administrés de leur commune. Alors reste à savoir comment ils veulent s'organiser. La formule officielle, c'est le SPANC, hein, c'est le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire SPANC
Service public.
C'est service public d'assainissement dans le collectif, voilà, c'est ça. Est-ce que ça se transfère en termes de technologie de contrôle à une collectivité relevant de l'intercommunalité, sachant que la responsabilité en termes de pouvoir de police du maire ne lui échappe pas, ou est-ce que chaque commune va travailler
Il y a des parcs, en fait, qui ont travaillé dans le Quercy, PNR le Quercy en ce moment. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en charge la mise en place du service sur plus de 50% de leur commune. Et ils veulent essayer maintenant de le rendre aux EPCI. C'est-à-dire, dans un premier temps, ils ont monté un service SPANC à l'intérieur du parc, qui a un budget en fait distinct. Si jamais le parc prend le SPANC, ça lui coûtera rien. C'est les communes qui vont reverser en fait un forfait et donc le parc va financer son équipe comme ça. Donc si jamais, là le parc, il peut avoir un rôle d'accélérateur. C'est-à-dire si on voit que là, d'ici à 2012, on se rend compte que ça ne sera pas tenu, les communes elles vont être demandeuses, donc elles vont assez facilement signer pour donner la compétence au parc. Le parc, sur ses 12 premières années, voire moins 6-7 premières années, il peut mettre en place le service, et ensuite transférer ses techniciens aux EPCI du territoire. Si les EPCI du territoire sont suffisamment structurés,
c'est une action.
Ça, c'est vrai.
Donc ça peut être une piste.
C'est bien. Oui, parce que c'est très difficile pour les communes de mettre en place le service, et même au niveau de l'intercommunalité, pour arriver à rentabiliser le service, parce qu'après c'est l'usager qui paye, mais pour ne pas lui faire payer 300 ou 400 euros la visite.
Le PNR du Quercy, en fait, c'est ceux qui ont le forfait le moins coûteux, du fait qu'en fait ils sont à un niveau plus grand que les EPCI.
C'est combien ça coûte?
Je peux vous trouver le montant, si ça vous intéresse, je peux vous le trouver, mais je ne l'ai pas en tête. Comment ?
Après, ça devient une redevance.
Mais c'est une redevance. Toutes les communes, en fait, payent un forfait au service PANC du parc pour le service qu'il leur rend, c'est-à-dire d'aller vérifier les normes d'assainissement et s'il faut mettre en place des travaux de mise aux normes, sur tout ça.
Et c'est un contrôle qui se fait une fois ou bien
tout ça se fait une fois. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ça se fait une première fois. Et ensuite, ça doit se refaire assez régulièrement. Mais il y a un premier diagnostic état des lieux qui doit voir si l'assainissement est satisfaisant aux normes ou pas. À partir de là, si ce n'est pas aux normes, il y a des pistes d'amélioration à réaliser. Après, il y a une vérification. Et puis après, une fois qu'on sait que l'installation est aux normes, il doit y avoir un suivi régulier. Alors mais une visite doit prendre un quart d'heure, en fait, du coup. C'est ce que me disait moi le technicien, l'ingénieur qui s'occupe de ça au parc, c'est que c'est surtout sur les premières années que c'est long, et c'est pour ça que le parc peut être accélérateur. Parce que ce qui est lourd en fait, c'est la première visite et le diagnostic et la mise aux normes. Une fois que la mise aux normes est faite,
après ça s'échelonne, c'est plus facile.
Les communes délèguent
cette
approche à la lune des pour et un organisme qui s'appelle Aidant, qui est je crois la Carrosse, et qui vient faire l'état des lieux, son rapport, et le propriétaire est mis en place, si on peut dire, doit avant fin 2012 être en règle et pas donner.
Oui, Aidant, c'est un bureau d'études qui s'est spécialisé là-dedans. Et qui nous a fait chez nous, dans de nombreuses communes, le schéma d'assainissement. Mais bon, c'est une façon de voir les choses, hein, parce que si on travaille avec le parc, c'est comme si on faisait ça peut être assimilé à un travail en régie. C'est pas inintéressant, parce que travailler en régie, c'est des créations d'emplois locaux. Voilà.
Il y a 7 personnes qui ont travaillé aussi.
Est-ce qu'il faut absolument travailler chaque fois avec la Lyonnaise? Je sais pas.
Non, il y a certaines communes qui travaillent en régie, hein. Il y a Fontaine Montsarcy qui travaille en régie municipale, ouais. Donc c'est un employé donc, de la commune, ça crée un emploi. Et puis par ailleurs, bon, il y a des choses qui ne sont pas, enfin, au niveau de la Lyonnaise, il y a eu une réunion et des collègues qui ont été facturés alors qu'ils n'étaient pas raccordés en tout cas les bouts. Ils ont été facturés et ils ont dû payer depuis des années une paye. Et là, la personne s'est renseignée, mais est-ce que. Comment ça se fait? On n'a pas le tout avec vous. Ah, mais c'est parce que vous êtes raccordable. Mais en fait, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on est un peu baladé.
Alors, par contre, on est tenu de payer le droit de raccordement, enfin, la taxe de raccordement, on est obligé de la payer si on est raccordable.
Voilà, mais la personne n'était même
pas la consommation.
Mais la personne n'était même pas raccordable, ça vous a dit.
Ah, oui, alors là.
Sur l'assainissement, est-ce qu'il y a d'autres éléments importants qu'il faut souligner?
Il y avait quelque chose aussi, il y a un collègue qui parlait pour sa fosse septique, en fait il y avait très très peu de boue, parce qu'il y avait un truc pour la graisse.
Un bac à graisse,
il y avait un truc là, et il disait que quand c'était fait correctement, en fait lui l'année, les années qu'il a, il n'y a pratiquement pas de boue. Et là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant au niveau de l'information, même au niveau de la création
Franchement, le système de bac à graisse et des fosses toutes eaux, ça fait 50 ans que ça existe, hein, c'est pas
un gros
pas.
Mais bien sûr.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui font très bien le travail de drainage qui se passe derrière. Et c'est souvent là qu'il y a les désordres dans les fosses septiques.
Ça dépend
C'est des histoires, voilà, des histoires d'épandage avec des pentes bien calculées, avec des dispositifs de bidim par-dessus qui évitent que ça vienne colmater par des eaux ou des fines de boue, etc. Voilà. C'est plutôt à ce niveau-là, parce qu'après, un bac à graisse bien entretenu, juste à côté de la maison, qui est souvent vérifié, qui est pas soumis trop au gel, parce que la graisse, elle gèle facilement un peu l'eau, bah, c'est sûr que ça, plus la fosse toute eau derrière, n'importe laquelle, plastique, béton, ce que vous voulez, et avec un bon drap derrière, c'est ce qu'il faudrait.
Alors, il faut être sûr que la construction qui est des normes, qui est des
soins, mais ça sera le contrôle, ça sera le contrôle au niveau de la construction.
Est-ce qu'il y a encore un point important sur l'assainissement où on passe à l'eau
Alors l'eau, ben, on a dit voilà, connaître le fonctionnement hydrologique et hydrographique du territoire, la qualité des eaux. Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité.
Ce sont des objectifs un peu généraux pour entrer un petit peu dans
les... Moi, je vais encore revenir sur cette histoire de l'assainissement. On n'a rien dit sur l'assainissement industriel. Alors, comment c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème.
Nous, on n'avait pas trop recensé l'industrie dans le PNR, c'est pour ça que ce n'était pas trop orienté. Donc.
Oui, il y en a.
D'accord. On parle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le périmètre qu'on va affiner, on va sortir des zones industrielles. C'est pas.
Le parc peut quand même avoir un travail, y compris sur les zones périphériques. Pas dans un premier temps, mais on peut avoir un rôle de sensibilisation. C'est pas impossible.
Oui, non, c'est sûr.
Ça ne sera pas une priorité. Mais...
Non. Dans les actions prioritaires, on ne peut pas mettre l'assainissement industriel, ça ne devient pas une problématique du territoire. Ce
n'est pas une problématique du territoire. Voilà. Vous allez sortir MAN du périmètre
Pourquoi pas, oui. La Sarée, c'est un truc.
Mais moi, je pense qu'il faut au contraire essayer de faire quelque chose, parce que sinon, il y a d'autres industries qui vont s'y mettre dedans.
Non, mais ça, c'est les problématiques des communes. Nous, on ne peut pas se substituer au maire pour dire, monsieur le maire, vous devez interdire ça ou vous devez autoriser ça. C'est pas la compétence du PNR. Hein.
Mais si on indique que ce plateau de la Sarée doit être protégé et doit éviter les pollutions, parce que.
Une entreprise telle que MAN fait partie des établissements classés de la protection de l'environnement. Ils sont normalement très surveillés par la ville de l'environnement.
Non seulement ils sont très surveillés, mais c'est eux qui financent les stations d'épuration. Donc,
Et donc, si ces établissements sont en veille, ils ne vont pas plus que les autres.
Non.
Seulement ils sont très surveillés.
Ouais. Mais c'est une vraie interrogation de savoir si un établissement industriel d'importance comme MAN doit être exclu ou maintenu du périmètre. C'est une question qu'on va se poser. Il y a des PNR où ils ont sorti des carrières des périmètres du PNR.
Même au milieu du
périmètre. C'était en même temps pour faire quelque chose. C'est un peu d'hypocrisie, c'est pour leur permettre de fonctionner avec d'autres
moyens. Mais c'est juste cette usine MAN qui serait sortie, ou serait tout le coin qui serait sorti
Ça, à discuter avec la mairie, parce que c'est pas. Ce travail de périmètre, c'est comme je le disais en référence au poste, au PLU, au SCOT, c'est donc bien de la compétence du conseil municipal et du maire. On peut pas faire autrement que d'entamer cette discussion qui va prendre du temps, ça c'est sûr.
Il y a l'usine là. Ouais, qui est au-dessus du lac, là, juste à l'embouchure de l'Estéron, là, qui est très polluante, il paraît aussi.
Directement, on ne devrait pas descendre jusque-là. Non plus.
Ah oui.
Et là aussi, par contre, c'est ne pas mettre le lac dans le périmètre, c'est bizarre.
Ça serait 200 entreprises et des eaux, apparemment,
là, et c'est là. Oui, sur quelle commune?
C'est Gillette.
Et MAN, c'est.
Morceau.
Ouais, il y a deux.
Oui. Non, mais ils sont très, très, comme disait Mme Pinet, ils sont très, très contrôlés. Hein. Et ils jouent le jeu parce qu'ils mettent vraiment les moyens financiers pour se mettre à la norme en matière d'assainissement.
Ils ont un bureau ISO, ils ont des personnels, des ingénieurs.
Ils sont assez au point.
Est-ce qu'on passe à l'eau ou il y a d'autres éléments
L'eau, vous n'avez pas du tout mentionné la protection des sources.
Du captage d'eau,
Ouais.
C'est ce que je disais, ce sont des objectifs généraux à préciser en action.
La question, c'était plus est-ce qu'on protégeait plus que le périmètre réglementaire
Les périmètres de protection, ils ont déjà été mis en place.
Ah oui.
Parce qu'il y a certains territoires.
Ceux qui ne l'auront pas fait, ils sont gravement fautifs au niveau de la responsabilité du maire de ne pas avoir protégé leurs sources avec un périmètre immédiat, rapproché, éloigné. J'aime autant dire que le périmètre éloigné.
Est-ce que là-dessus, on a une connaissance est-ce qu'on peut affirmer que les captages d'eau sont connus et protégés sur l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu d'informations, petite étude, un mini-diagnostic à faire là-dessus, quoi.
Il y a un mini-diagnostic à faire, mais bon, sachant qu'il y a des syndicats de gestion de l'eau un peu partout, ça sera vite fait, parce qu'il faut se rapprocher juste des syndicats.
D'accord.
Des CIU, donc, en soi. Hein. Il y a peu de communes qui sont individualisées, au moins presque regroupées, quoi.
Ça pourrait être presque être fait là, dans les prochains jours,
ouais.
Ça on saura.
Ouais.
La protection éloignée, vous dites que ça peut être très large.
Ah oui, oui. C'est des grands bassins versants qui correspondent à des entités géomorphologiques. Et c'est d'autant plus large que, comme vous faisiez référence tout à l'heure, à des territoires calcaires, karstiques, faillés, ça peut aller très loin. Il y a des communications. Absolument.
Donc au niveau de l'eau, c'est là où on avait évoqué de mettre un deuxième périmètre surtout, parce que il y a le périmètre du parc, et après c'est vrai que nous, toutes les protections qu'on va faire en amont, ça va se retrouver, le loup il descend beaucoup plus bas, l'estéron aussi, donc essayer de...
C'est les femmes bleues, ça, c'est inscrit dans les femmes bleues. Hein.
Un exemple.
Mais les femmes bleues, c'est vraiment qu'autour des rivières. Donc là, c'était vraiment élargir.
C'est le schéma de management de gestion des eaux. Quoi.
On a parlé à un moment d'un lassage.
Après, moi, je ne connais pas plus que ça, mais apparemment, le territoire, c'est un peu le réservoir d'eau du littoral. Donc. Le problème, c'est est-ce qu'il y a vraiment des pollutions qui jusqu'au dessus ou des menaces de la qualité des eaux qui justifient en fait la mise en place d'un SAGE. Si c'est le cas, comment ? Effectivement, il y a l'urbanisation sur les coteaux, il y a.
Toutes les sources des rivières du territoire, elles sont sur le territoire, je pense, non ?
L'Artibie, c'est dans le 04.
Ah oui.
C'est pas chez nous. L'Estéron, c'est limite. Hein.
L'Estéron, il est.
Il y a une branche qui part de Soleillas aussi.
Ah oui, Soleillas, c'est pas sur le.
C'est 04. Mais il y a une deuxième branche qui part de Saint-Thomas.
Le fait que les sources, je crois, comme la Salle, par exemple, soit dans un domaine, soit un domaine privé, ça ne pose pas de problème. Bon, justement, la préservation et la protection de ces sources. Je ne sais pas, c'est une question.
Ils ont eux aussi un CIU au niveau de la vallée d'Asiane, hein, qui est interdépartemental, puisqu'il est à cheval avec les communes du Var. Mais c'est ce qui avait été mis en avant par Maxime Poulet en disant c'est inadmissible que le périmètre immédiat soit sous contrôle d'un particulier et qu'on ne puisse pas rentrer dans la propriété privée pour faire les.
Ça se demande pas faire un complexe touristique d'ailleurs. Voilà. Donc.
Non, c'est la sienne, c'est un vrai problème.
Je crois qu'à ce stade, c'est difficile d'inscrire dans la charte une action. Quoi. Ce sera pas inscrit dans la charte, mais dans le plan d'action, déjà, à ce stade, une action de type SAGE, parce que SAGE, c'est vraiment une action d'ampleur. Par contre, ce qui peut être intéressant d'inscrire, c'est l'approfondissement de la connaissance des problématiques de pollution et de menaces sur les eaux présentes dans le réservoir d'eau, pour voir si, effectivement, il y a menace importante, et du coup, après. Parce que à ce stade, je pense que ça serait un peu hasardeux.
Cela dit, pour être complet, il y a quand même un certain nombre de communes de l'extrême ouest du territoire qui sont dans le SAGE du Verdon. Puisqu'il y a deux affluents du Verdon, la Lanne et l'Artubie, qui sont donc inscrits dans le SAGE du Verdon. Donc il y a une partie. Non négligeable.
Ça, c'est pareil, je pense qu'il y a un mini diagnostic à faire sur la couverture du territoire par des.
Alors on va voir quand l'or sera en ça place, c'est un bossé là-dessus. On aura tout avec elle.
Ok.
par rapport au fort changement climatique et aux variations sur l'année, ça aurait été bien de faire plusieurs relevés justement pour, si on lance un diagnostic, ben, l'hiver, à la fin des neiges, en période de forte pluie, en période de sécheresse, pour voir un peu.
Parce que jusqu'à maintenant, en termes de relevé de suivi de la qualité des eaux sur le territoire, il y a des choses qui ont été faites, j'imagine, quand même. J'avais vu, moi, dans l'étude de 2004, que c'était assez variable, qu'il n'y avait pas de grosses problématiques, globalement. Par contre, qu'il y avait, sur certains points, une qualité des eaux qui était moyenne.
Il y a un relevé par an, ça dépend. Les rapports qu'on a, tous les relevés n'ont pas été forcément faits au même.
Donc il y a quand même une question centralisée d'information sur les relevés de qualité des eaux sur le territoire.
Et en dépit aussi.
Et après, il y a des endroits où ils auront des problèmes de ressources.
Est-ce que je peux citer un cas? C'est le SICACI, le syndicat intercommunal des communes riveraines de la Siagne et du Loup, qui draine les eaux, notamment sur le plateau de Cossol, qui descend dans le gouffre de l'Embut, qu'on récupère à Brabant-Franc, qui rejoint le Loup et qui alimente jusqu'à la ville de Clermont. Et à une époque, ils avaient fait une intervention auprès du maire de Cossol en disant il faut protéger votre Embut, il y a trop de cochonneries qui tombent là-dedans. Le maire dit non, moi je ne veux rien faire, mais peut-être que dans le cadre du parc, il y aura une petite intervention à faire. Le maire a changé depuis, peut-être que ça sera plus facile, mais c'est en but, tout le monde s'y promène, il jette n'importe quoi.
Je pense que pour intervenir sur ce genre de choses, il faut mettre en place un schéma de gestion. C'est difficile pour ma part d'intervenir ponctuellement.
Soit
un contrat de rivière.
Non, mais moi je pense que le SICACI peut être identifié comme un partenaire sur ce problème-là, un partenaire du parc, et aider le parc à protéger sa propre ressource.
SICACI,
c'est syndicat intercommunal. Bonjour.
Fournissez l'eau à ceux de l'entrée du tribunal. Donc il repère une participation, je ne sais pas.
Mais c'est ce qu'il dit, qui redisait. Il avait fait un projet de loi qui avait été accepté de voir comment les communes du littoral pouvaient être solidaires du haut pays.
Financer
quelque part. Voilà,
là, typiquement, je pense qu'il y a exactement le contexte sur le ça. Ça, c'est clair. Donc, on peut. Éventuellement, ça peut être inscrit dans la charte. On peut même demander à la communauté urbaine de s'engager, même si elle ne sera pas signataire puisqu'elle n'est pas sur le territoire, mais elle peut quand même s'engager oralement, on va dire, même sur une lettre signée là.
Si, mais les communautés, on a deux communautés d'agglos quand même dans le.
Les communautés d'agglos peuvent.
Oui,
la CASA et la CAPA.
Oui, même les communautés urbaines, elles peuvent. Après, financer, donner une subvention au parc,
mettons. Ça peut être. Il n'y a pas que le financier, il y a aussi l'aspect technique. S'ils ont des ressources humaines. Parce que le parc, dans ses premières années, il ne va pas avoir une équipe de 20 personnes. Vous allez avoir 5 à 10 personnes, peut-être qu'il n'y aura personne sur l'eau. Selon les volumes de recruter, on n'est pas toujours libre de recruter.
Non, on a bien dit qu'il y aurait des priorités dans les actions. C'est à voir. Hein.
Et protéger
l'ambiance
de
Boussole,
ils
ont
pas,
je
veux dire, c'est vital aussi pour ceux qui sont là.
Oui.
C'est un
bien collectif. Bien
sûr. OK. Sur l'eau, est-ce qu'il y a d'autres.
Après, il y a certains agriculteurs qui n'ont pas trop d'eau. Et après, peut-être pour l'élevage, si on pouvait créer des retenues d'eau, ça, même au niveau des moutons, ça pourrait éviter qu'ils aillent bord dans les rivières et peut-être qu'on pollue un peu.
Tout à fait.
Mais ça, c'est transversal avec la commission agriculture, etc.
Voilà, on a l'aspect transversal avec l'agriculture, on a au niveau de l'eau et des déchets pour la réutilisation du compost.
Des retenues d'eau sur les rivières ou faire des impluviums?
Non, des impluviums.
Des impluviums, c'est ça.
Oui.
Non, parce que là, si on touche sur les rivières, c'est la police des eaux.
Oui, c'est pour ça, retenue d'eau, voilà, c'est important.
Mais à une échelle plus large, est-ce qu'il y a vraiment des, au-delà des problèmes que rencontrent certains agriculteurs, est-ce qu'il y a des, vraiment une problématique de ressources en eau et de quantité d'eau?
Il y a certains endroits, oui.
C'est du côté de Saint-Antonin, etc.
Donc il y a une question de disparité géographique aussi, donc il y a aussi savoir, faire peut-être une cartographie sur quoi. En tout cas, il y a besoin de connaître.
Oui, dans le plan du corps, ça, on va
faire après. Nous, dans notre lieu, avant les... il y a une source qui alimentait avant la ferme toute l'année. Maintenant, elle est tarie en été, donc une bonne partie. Pendant 3 mois, elle est tarie.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ce problème? Moi, je connais des agriculteurs qui ont en train de faire des produits, par exemple, sur leur secteur, et qui ne sont pas du tout à proximité des réseaux d'eau potable de la commune. Et en fait, ils se trouvent coincés parce qu'il n'y a pas d'attente comme électrique pour eux. Et voilà.
Ils ont eu une proposition, mais c'est vrai qu'après c'est coûteux, hein, parce que tout ce qui est propriété privée, c'est à leur charge le raccordement.
Si la mairie de Saint-Pierre veut financer, c'est ce que j'ai répondu, hein. La mairie de Saint-Pierre a les moyens, mais je comprends qu'il ne veuille pas mettre beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent.
Mais moi je pensais que les communes plutôt
proches. Oui, mais enfin c'est pas le même canton, c'est pas le même distributeur d'eau.
Il n'y a pas de moyen de développer des conventions justement pour permettre des gens.
Non, il n'y a pas de réseau à proximité. Il faut venir de loin.
Je ne sais pas si au niveau des retenues, si pour les particuliers, justement, il y a des systèmes pour...
Ils fonctionnent, mais bon, ils ont forcément ce système-là, puisque c'est une exploitation qui existe depuis fort longtemps, mais...
Et apparemment, ils disent que depuis... Voilà, l'eau se dégrade dans les citernes,
C'est devenu faux. Il y a des UV, il y a des systèmes de traitement. Il faut que l'eau, peut-être pas consommable à table, mais elle est tout à fait propre.
Mais les citernes, c'est jamais des grosses quantités, ça peut pas être un volume très important, tandis que des...
On parlait d'un bassin qui est très grand.
Ah oui.
Et l'eau transite par une citerne, parce qu'on ne peut pas la laisser à l'air libre, comme ça, mais elle est traitée au niveau de la citerne, analysée régulièrement.
Des retenues comme...
Mais si on peut la stocker proprement, déjà l'eau de pluie peut très bien se revitaliser un peu avec un traitement tout à fait normal.
Mais pour arroser.
Est-ce qu'on peut revenir à la formulation des objectifs opérationnels rapidement? Je crois que le premier, bon, c'est un objectif assez général de connaissance. A priori, je pense qu'on est d'accord, à moins qu'il y ait peut-être d'autres choses à préciser, mais globalement c'est connaître un petit peu l'existant. Et puis peut-être le deuxième qui était préserver la ressource en eau, on peut peut-être plus parler de se poser la question de la gestion de la ressource en eau. Donc sans aller jusqu'à un schéma d'aménagement de gestion des eaux, mais plus que préserver la ressource, ça va être gérer la ressource ou alors approfondir la réflexion sur la question de la gestion de quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est approfondir la réflexion, parce qu'on n'en est pas encore plus loin que ça, quoi.
De même que pour les déchets, on pourrait dire aussi réduction des... Enfin, une formation pour savoir les moyens de réduction des besoins en eau, quoi. Moins gaspiller, quoi. Et aussi l'utilisation de l'eau de pluie. Utilisation d'eau de pluie dans les habitats.
En fait, dans l'objectif 7, il y a l'eau est citée. on a mis de la gestion des ressources en eau et de la maîtrise des productions.
Oui.
À la limite, ce qu'on peut faire, c'est séparer les deux. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je séparerai les deux objectifs pour que l'eau et les déchets soient traités séparément.
Mais en tout cas, ça peut être traité et après ensemble, parce que justement, dans, au niveau du jardin, mettons dans le compost, on peut aussi récupérer les eaux de pluie pour arroser le jardin. Et s'il y a des personnes qui passent pour former, pour sensibiliser, elles peuvent... s'il y a une démarche globale, peut-être que... voilà, les habitants seront peut-être plus sensibles aussi de voir au niveau des actions qu'on peut entreprendre.
En fait, ça existe déjà, je vais prendre un peu d'avance, mais sur la problématique énergie, il existe des espaces info-énergie qui sont dédiés aux particuliers, sur le conseil de gestion de l'énergie dans l'habitat en général, etc. Et il existe la même chose dans la Drôme, il y a une association qui a développé du conseil sur l'eau. Parce que dans la Drôme, ils ont beaucoup de problèmes de sécheresse et d'alimentation en eau en été, qui ont régulièrement des sécheresses tous les ans. Et donc, il y a une association à côté des points info énergie qui a développé un point info eau qui sensibilise le particulier à toute la gestion de l'eau dans l'habitat. Donc, aussi bien au niveau des toilettes, ceux qui construisent des maisons neuves, ils peuvent avoir une information sur les toilettes sèches et comment on peut d'autres toilettes. Sur l'assainissement collectif, par exemple, comment est-ce qu'on gère l'eau usée, comment est-ce qu'on économise l'eau au quotidien, savoir comptabiliser tout ça, connaître sa facture d'eau, récupérer l'eau de pluie, savoir les aides qu'on peut avoir sur tout ça. Donc c'est des choses qui existent peut-être que...
Non, c'est intéressant, je ne sais pas si... Après, il faut que ça réponde vraiment à un enjeu... territoire pour que ce soit placé en priorité. Par contre, ça peut être cité comme une piste possible. Je ne sais pas si vous considérez que ça peut être une priorité.
On
avait parlé
justement des maisons du parc. Avoir une maison du parc modèle et témoin. Justement, vous, s'il y a ce point d'info qui soit donc en utilisant les énergies renouvelables, en faisant un système d'assainissement individuel en eaux pures, en récupérant voilà, toutes les eaux de pluie, en faisant un petit compostage devant et pour montrer justement, ça pourrait être une maison témoin avec une salle de formation pour accueillir les enfants.
Oui, il n'en faut pas une seule, il en faudrait sur tout le territoire, il en faut plusieurs, il en faut au moins
ça
sur
coûte
les...
cher.
Et oui, oui.
Déjà une, je pense que ce serait pas mal parce qu'il y a des parcs qui sont témoins.
Ah oui.
Quand on a un robinet, on a tendance à penser que c'est une ressource inépuisable. Et il y a, et c'est vrai, quand on voit les factures d'eau, il y a pour superficie et les familles identiques à peu près des différences du simple au triple ou quadruple plus de consommation en eau mensuelle. Est-ce qu'on peut faire une veille? Ça fait peut-être bondir ce que je dis, mais est-ce qu'on peut-être regarder un petit peu ces factures et aller voir comment font les gens?
Mais tout dépend de qui gère l'eau. Si c'est voilà, si c'est une entreprise, elle n'a aucun intérêt à aller voir les factures des consommateurs pour les régler.
Non, mais c'est évident, mais on sait bien que c'est une ressource qui deviendra de plus en plus rare.
On peut faire que par volontariat, on peut faire que mettre à disposition des particuliers un espace de conseil gratuit, c'est déjà énorme.
On ne peut pas vraiment obliger.
On peut pas
les gens à consommer moins d'eau. On peut obliger les gens à consommer
moins d'eau. En mettant le coût de l'eau pour les régler.
Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est de, à travers le journal du parc, par exemple, c'est possible de faire un article sur les économies d'eau et donner des moyens techniques simples pour que chacun calcule ce qu'il va économiser. C'est-à-dire, avec des petits gestes, voilà, ça c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai qu'étudier les factures, ça,
c'est... Non, mais
c'est
dommage que chacun puisse consommer ce qu'il veut en eau. On peut laisser le robinet ouvert toute la journée.
Non, c'est vrai.
Personne ne nous dit rien. C'est étonnant. Quoi. Moi, je trouve c'est étonnant.
Après, ce genre de choses, ça coûte cher, mais là, l'association dans la zone, elle s'appelle CEDER. Et en fait, c'est une association qui a des subventions. Donc après, il y a différents modes de fonctionnement. Je pense que si c'est pas le parc qui peut avoir une maison, ça peut être une subvention locale.
La question qu'on posait, c'était est-ce que ça s'inscrit dans une priorité du parc?
Moi, je pense que oui.
Protéger les réservoirs.
Oui.
Parce que ça, c'est, je trouve que c'est un moment fondamental, parce que c'est tout le département qui va en
Oui, mais protéger la réserve en eau, ça va devient jusqu'à effectivement à disposition à inculquer aux gens de ne pas gaspiller l'eau, tout ça.
Bien sûr.
Je pense que la qualité de l'eau. Protéger la qualité
de l'eau. Qualité, quantité.
Qualité, quantité.
Oui, d'accord.
Oui, c'est important.
Ça si les communes ont mis en place leur périmètre, directement, on n'a pas à avoir de gros soucis qualitatifs, quoi. Sauf, effectivement, des points comme l'enduite de Cossol où il faut faire quelque chose. Voilà.
Oui, c'est quand vous pensez que, par exemple, dans les carrières du Bourdon, on devait enfouir des mâches vertes, avec l'accord de la Trier et de la préfet, je veux dire, c'est quand même grave, quoi.
Oui, oui, non, mais ça ne se fait pas.
Ça allait se faire, là, pourquoi ? Parce que c'est pas qu'on fait, alors que c'est quand même quelque chose qui est vraiment gravissime, quoi, pour les réserves.
Est-ce qu'on peut passer à la grande orientation, à l'orientation stratégique suivante?
Oui, parce que là, ça fait un bon bout de temps là-dessus. Alors, le point 2,
une dernière.
Sur les associations, il y a un point 2 énergie à Grasse qui est l'association de la science qui fait aussi des animations en environnement. Et ils travaillent, l'association travaille beaucoup avec l'agence de l'eau. Donc, il y a des contrats qui sont faits avec contrats d'objectifs pour avoir des plans de subvention qui permettent, comme vous avez vu, de faire des animations qui soient spécifiques au parc pour amener.
De toute façon, vous mentionnez avec l'agence de l'eau, il est, dès que le parc voudra s'investir. De manière un peu importante, s'il veut mettre en place un stage, le conventionnement avec l'agence de l'eau il est obligatoire. Donc, effectivement, je pense qu'il faut. C'est une piste indispensable.
Comment ? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un stage, c'est juste d'avoir un objectif sur un territoire, de dire on va développer telles actions et essayer de sensibiliser sur ces thèmes.
Voilà, c'est un peu en forme de conclusion, donc ce que vous venez de dire, sur le point. Le premier point des orientations stratégiques. Donc, on passe au point numéro 2. Alors, définir une stratégie de maîtrise des consommations d'énergie avec de l'habitage que, de la maîtrise de la demande en énergie électrique, la sensibilisation. Définir une stratégie visant à encourager la production d'énergie renouvelable en cohérence avec la préservation de la qualité du territoire. On est dans la transversalité, là aussi. Soutenir la structuration et l'aide à l'exploitation de la filière bois, personnel pour l'abattage et le débardage, regroupant des parcelles pour leur entretien. Suivre et accompagner les projets d'infrastructure de desserte en énergie et communication sur le territoire, avec la THT, le GSM, le haut débit. Mettre en œuvre des solutions expérimentales et innovantes en matière de maîtrise et de production énergétique en lien avec les pôles de recherche existants. Voilà. On avait abordé ça dans la sous-commission qui s'était tenue à Roquelignon et ça reprend bien tout ce qui avait été annoncé. Voilà, donc,
est-ce qu'il y a des remarques déjà sur les objectifs opérationnels ou est-ce qu'on peut déjà discuter un petit peu des actions ou les deux d'ailleurs, on peut faire des allers-retours?
Je pense qu'avec le premier objectif, comment est-ce qu'il peut se traduire en définir une stratégie ? Ça veut dire qu'il faut que ça soit homogène sur tout le territoire, du point de vue des permis, et... c'est ça ?
Oui, ça veut dire encourager le principe d'une construction qui peut aller jusqu'à la maison passive. Pourquoi pas ?
Oui, définir une stratégie, ça veut dire que le parc, il va se poser la question de... je fais un diagnostic du territoire, soit rapide parce que j'ai de l'info qui existe, soit long parce qu'il n'y a rien qui existe. À partir de ce diagnostic, je sais que j'ai telle potentialité, que j'ai telle faiblesse, telle force, et je mets en place une stratégie, c'est-à-dire une série d'actions, un peu comme là, sauf que c'est uniquement ciblé sur l'énergie. Donc par exemple, j'ai le conseil régional qui finance tel type de mise en place d'installation de production d'énergie, ben, je vais essayer de faire le relais entre le conseil... Alors, un axe, ça va être faire le relais entre le conseil régional et les particuliers, voilà, donc c'est décliné en fait... C'est ça.
Est-ce qu'on pourrait ajouter un permis du CAP, THT, GSM, au débit, l'enfouissement, quand c'est possible, et qu'on veut respecter aussi, l'enfouissement des lignes.
Des réseaux aériens
moyenne tension.
C'est effectivement quelque chose qui est transversal entre énergie, Parce que ça améliore en général la desserte électrique d'une part, d'autre part, en cas de catastrophe naturelle, ça évite qu'il y ait des coupures d'électricité.
Déjà, sur les sites classés, c'est obligatoire.
Mais on l'a dans une autre commission. Hein.
C'est paysage. C'est aussi
paysage et...
Mais c'est, non, c'est intéressant de c'est intéressant de voir ici aussi. Il faut l'avoir ici aussi.
Voilà. Bien sûr, ça a été dit avec force, à grâce, hein, vous vous souvenez, ça avait été dit, que j'avais signalé que EDF, dans le plan, enfin avec leur fonds, là, c'est pas le FACÉ, n'avait pas fait la moitié, même loin de là, de ce qui avait été prévu et programmé. Hein. Ils sont très en retard sur leur plan d'enfouissement.
Ouais. Et sur le territoire, donc au niveau de l'enfouissement des réseaux aériens, il y a...
Ici,
ouais.
On est même plus, même pas à l'image de l'avancement des régions qui ont, parce qu'ils ont fait un effort effectivement sur les régions qui ont souffert des tempêtes. Ça viendrait sur les Landes et sur les secteurs comme ça où ils ont régulièrement des poteaux couchés par les tempêtes, donc ils ont mis un peu plus d'argent sur ces secteurs-là.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des opérations qui sont très coûteuses. Donc, par exemple, sur le parc naturel régional de Quercy, qui a fait un gros travail sur l'enfouissement des réseaux, donc sur 10 ans, il y a 33 millions d'euros qui ont été injectés sur le territoire, il y a 11 millions, quasiment, qui sont des enfouissements de réseaux aériens. Il faut savoir, ce sont des... Il faut qu'il y ait des enjeux très importants pour que ce soit mis en place, parce que c'est les opérations les plus coûteuses.
Ce qui est dommage, c'est que le SLED retourne à Paris les fonds qu'il n'a pas utilisés pour les enfouissements.
C'est vrai aussi que c'est pas le parc qui finance sur les enfouissements. Donc effectivement, on peut voir ça comme ça, mais en même temps, c'est de l'argent public et il faut toujours que les enjeux soient importants. Il vaut mieux qu'il y ait l'enjeu catastrophe naturelle, l'enjeu desserte et l'enjeu paysage. Ça permet de justifier plus fortement les financements qui sont investis.
Bon, de toute façon, ça sera détaillé dans la commission paysage. Voilà. Bon, donc on peut regarder un petit peu plus ces actions, effectivement, pour...
Sur la maîtrise des consommations d'énergie, est-ce que vous avez des pistes un petit peu
Ça va être mise en place de leur conseil d'énergie partagée.
Alors expliquez-nous ce que c'est un
conseiller. C'est un conseiller qui proposerait aux communes de calculer la consommation
de fonds. Donc c'est un conseil en énergie partagée.
Oui, c'est un écologique.
Pourquoi partager, ça veut dire quoi?
Parce qu'en fait, il est partagé sur plusieurs communes.
Ah, c'est le conseil qui est partagé, d'accord, c'est pas l'énergie. D'accord,
mais c'est vrai que les bâtiments communaux et toutes les structures communales sont souvent celles qui consomment le plus d'énergie.
Ouais.
D'une part, d'autre part, les communes sont signataires de la charte, alors que le particulier n'est pas signataire de la charte. Donc c'est vrai que ce qui fonctionne assez bien, c'est de faire un diagnostic des consommations d'énergie communale, voir s'il n'y a pas des possibilités de mise en place de chaudière bois, donc à l'échelle d'une commune, qui va chauffer l'école primaire. Enfin, bon.
En principe, l'EDF fait ce genre de
principe.
Moi aussi,
j'aurais
aimé. Toi
aussi. Et après, on avait aussi.
Mais toi, c'est à la demande.
D'éteindre l'éclairage public à une certaine heure.
Effectivement, on en avait parlé.
C'est dans le projet.
C'est ça.
Parce que là, c'est très défini. Personne n'est venu qu'entre négociateurs avec EDF qui est contrat sur les bâtiments, on pourrait perdre 15% dans les structures.
Voilà, c'est pour ça que nous on a un contact tous les ans, un bilan tous les ans avec EDF et ils nous sortent un bilan sur effectivement les points qui pourraient être économisés, des abonnements qui ne servent pas beaucoup, qui pourraient être diminués en puissance. Moi j'ai trouvé qu'ils donnaient beaucoup d'informations là-dessus.
Et justement
on peut se rapprocher de DF à ce niveau-là.
Voilà. Est-ce que le rôle du parc, ce ne serait pas d'étudier les bilans de l'ensemble des communes et puis de donner des quoi de en fait, peut-être que toutes les communes n'ont pas le temps d'étudier ce bilan et de se dire bah, qu'est-ce que je mets en place comme action pour améliorer ma consommation. Est-ce que le parc ne pourrait pas justement appuyer les communes
sur... c'est évident, parce que si on veut déboucher sur l'application filière bois, c'est bien à partir de ce type de diagnostic qu'il faut le faire. Quoi. Bon, alors Céline, toute seule, elle n'arrivera peut-être pas à le faire sur... sur tout le territoire du parc.
C'est peut-être d'avoir un autre poste sur le parc.
Voilà, mais, voilà. Non, mais par contre, effectivement, il faut aussi citer les partenaires qui peuvent intervenir sur ces éléments-là.
Donc, non, moi, je ne sais pas de faire des audits énergétiques. Mon rôle, c'est vraiment sur la filière bois, de développer des chaudières et de faire du français des grandes chaudières et
d'accord.
à la mobilisation du bois pour le combustible.
Donc, le partenaire, c'est identifié, c'est la COFOR.
Commune forestière.
Commune forestière. L'association des communes forestières, la SOS.
Sur, donc là, on a parlé un peu de la maîtrise des consommations au niveau des bâtiments communaux, des consommations des communes, au niveau du particulier.
Alors, il y a une piste, c'est dans les constructions neuves ou rénovations de toitures, de rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires thermiques pour l'eau.
Est-ce que c'est pas un peu fort, rendre obligatoire c'est un coût, non?
Non, les panneaux thermiques, c'est pas très coûteux. C'est pas un coût très. C'est pas comme les photovoltaïques.
Et au niveau paysager, c'est.
Donc, comme la charge du patrimoine, qui interdit l'installation de panneaux solaires dans un périmètre de 300 ou 500 mètres, ça dépend.
Ouais, justement, au niveau paysager, ça a quel impact?
Ouais, il y a des endroits où ça interdit. Ouais.
Voilà, ça commence à s'intégrer dans le paysage, c'est au niveau.
Mais on peut les mettre en antenne.
Il y a des antagonismes.
Ils peuvent être intégrés dans la toiture, c'est déjà, ça se voit beaucoup moins.
Dans la charte du patrimoine, c'est interdit.
Oui, c'est vrai.
Oui. Donc, est-ce qu'il faut pas travailler là-dessus et essayer de décider
Il faudrait voir si on.
Définir les priorités, si on voit voilà.
Ouais.
Et l'économie d'énergie, d'abord, sans nuire
à la télé.
C'est quoi, ces panneaux solaires ou c'est...
Panneaux solaires.
Thermique, voilà.
Quelle différence? Le thermique, c'est pour le chaud.
Pour l'eau chaude, sans passer par l'électricité. C'est pas des panneaux.
J'enlève rendre obligatoire, parce que je pense que c'est un peu fort. Au lieu de dire inciter dans un premier temps. Mm. Parce que rendre obligatoire, c'est...
Il y a des régions de France où ça a été fait. Je sais plus. Une communauté de communes, je crois que ça a été fait.
C'était obligatoire?
Ouais. Je ne sais plus où c'est.
Est-ce que c'est un sujet qui a été débattu dans une autre commission? Ça a l'opportunité de mettre le paquet maintenant dans les panneaux solaires, etc. Non plus. Ça a été débattu, je n'ai pas la liste de toutes les commissions.
Il y avait une non, parce qu'en fait, pour l'instant, on n'avait pas trop parlé des actions. Donc, on a parlé en général qu'il fallait développer les installations productrices d'énergie renouvelable.
Mais pas au détriment du...
Mais c'est toujours... C'était battu, le problème des ressources solaires, et on prend tout le thème.
En cohérence avec la préservation du territoire.
Il est clair.
Mais alors, qu'est-ce qui va trancher? On favorise le durable ou on préserve le territoire?
Ce qui va trancher, ça va être le parc... Le parc, c'est les commissions de travail du parc et puis les associations qui vont travailler avec le parc sur la définition concrète de son positionnement. Donc ça va être dans sa vie. C'est pour ça que quand on dit stratégie à ce niveau-là, c'est vraiment ça. C'est de dire, quand on définit stratégie, on va se poser la question autour de la table, jusqu'où on met le curseur, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on considère que l'installation de production, elle va trop détériorer les paysages, donc du coup, que ça vaut plus le coup de le faire. Ça, c'est... on ne peut pas le trancher aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est plus déjà sur une approche un peu générale de chaque thématique.
Mais ça, ce n'est pas dans la thématique énergie, c'est dans la thématique patrimoine ou architecture urbaine.
Mais c'est transversal, en fait. C'est transversal parce que d'un côté, il y a l'enjeu de la production d'énergie renouvelable, et d'un autre côté, il y a l'enjeu de préservation des paysages. Donc, ils vont un peu se télescoper et il faut trouver un équilibre entre les deux.
On a évoqué ça aussi avec les fermes photovoltaïques.
Le strict minimum, c'est 3 hectares. En sachant qu'il y a 1 hectare de panneaux pour les 3 hectares de terrain.
Juste un point là-dessus.
Le strict minimum, c'est 3 hectares.
L'idéal, ce serait que le parc se pose la question des paysages avant. avant, c'est-à-dire qu'ils disent, OK, bon, on a un territoire, un secteur paysager, sur quel secteur on peut développer tel type d'énergie, et du coup, dans ce qui pourrait être sa charte paysagère, c'est pas le sujet aujourd'hui, on ne travaille pas là-dessus, mais dans ce qui pourrait être sa charte paysagère, il pourrait en fait cibler les secteurs sur lesquels on peut mettre tel et tel type d'installation, voilà.
Paysager et risque pour la biodiversité aussi, hein. Oui. Il y a les deux, il n'y a pas que le paysage, il y a aussi ça.
Et les nuisances.
Les nuisances et
réverbération.
Il faut que ce soit protégé du public, donc c'est entouré, ce sont des énormes champs protégés par un grillage de 3 mètres presque, etc. Après, c'est vrai que pour le paysage et tout, c'est pas.
Il faut savoir aussi que le photovoltaïque, ça n'a pas un rendement...
C'est 11%, 11 à 14%.
Ouais. Et ça demande une énergie très importante pour la fabrication aussi.
Non, mais c'est vrai que c'est l'éolien produit plus, mais l'éolien a plus d'impact paysager, c'est toujours pareil. Il y aura de toute façon une réflexion à avoir là-dessus, qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui.
En développement durable, il y a les panneaux solaires pour la plupart, qui ont encore des résidus métaux lourds et compagnie. Oui.
C'est pas évident. Non, mais c'est clair que c'est pas de son noir.
Par contre, le thermique, c'est intéressant même au niveau coût. Parce qu'on rentabilise très vite si on compte l'électricité, un chauffe-eau électrique, ce qui est payé annuellement pour avoir l'eau chaude, ça rentabilise assez vite le panneau solaire photovoltaïque, photothermique. Je ne sais pas, coûte.
On est quand même bien obligé de tenir compte qu'il y a un Grenelle de l'environnement, 1 et 2, et que c'était... Voilà, c'est... Alors, moi, je souscris complètement à l'idée que ça me fait râler de mettre de l'investissement public dans des choses qui ont, d'une manière générale, aussi peu de rendement. Mais en même temps, il faut quand même, à un moment donné, démarrer un peu les choses. On est de toute façon victime de lobbyistes... sont les réalisateurs de panneaux de ce type-là. Ils évoluent effectivement, puisque maintenant ils travaillent sur les histoires de panneaux minces. C'est plus du silicium, c'est du tellure de cadmium. Mais du coup, on baisse les rendements. Alors, on augmente les surfaces. Et on ignore pour l'instant les autres solutions qui sont les histoires de concentrateurs, sur lesquels il faudra aussi, à un moment donné, se pencher, qui sont à 32, 33, 35% de rendement. Je pense qu'il est essentiel de prendre tout ça en compte, mais qu'on ne peut pas rester à côté des dispositifs des énergies renouvelables, que ce soit sous forme de fonds, que ce soit à titre individuel. Conseiller aux gens de faire en sorte que dans leur architecture, on n'ait pas des erreurs manifestes, puisque de toute façon on a les bâtiments de France qui interviennent à ce niveau-là et qui refusent de permis de construire, et qu'on peut faire du photovoltaïque. Alors c'est toujours l'histoire de la carotte, que au sol on est indemnisé, enfin c'est à 33 centimes d'euros, et intégré en toiture c'est 57 centimes d'euros. Si on arrive à persuader les gens que c'est pas forcément dans leur toiture de vieille cuve provençale qu'il faut poser le panneau photovoltaïque, pour autant, en se grattant un peu la tête, on peut l'intégrer au sol ou sur une terrasse et arriver quand même à mettre du photovoltaïque en route. Encore une fois, avec le bémol que les installations et la technologie d'aujourd'hui, c'est très mauvais. 10%, c'est mauvais. Voilà.
Très rapidement. Alors, je pense que la première des solutions aussi dans ce domaine-là, c'est la maîtrise des dépenses. Donc mettre le paquet sur les rénovations, l'isolation, le solaire passif. Et là, on fait des économies vraiment.
Il y a deux points. Marie-Pierre, elle a abordé pour les économies et les énergies renouvelables, tout ce qui est public. Donc l'économie de flux, c'est le rôle qu'il a. Et après, pour le particulier, pour les familles, etc., il y a des espaces d'infoénergie. Donc après, peut-être qu'il faut développer un espace d'infoénergie pour le territoire en particulier. Peut-être qu'il faut faire un partenariat avec des espaces d'infoénergie du littoral pour qu'ils viennent certains jours. dans la famille. Voilà. Et après, moi, je complète un petit peu mon rôle, c'est de faire du conseil sur le bois énergie, sur le développement de chaudières automatiques au bois pour les collectivités. Donc, c'est un travail en partenariat avec les économies de flux, avec les chargés de mission, des collectivités. Donc, je pense qu'après, un pôle comme ça, ça peut exister, quoi.
Je pense qu'il faut aussi, effectivement, penser à l'efficience tout de suite du parc. Donc, effectivement, c'est pas forcément pertinent de créer un espace info-énergie sur le territoire. Il faut plutôt essayer d'utiliser l'existant, pourquoi pas de faire un partenariat et de donner, financer. Parce que sur le Quercy, par exemple, ils avaient mis en place des permanences conseillers architecturales, ils se sont aperçus qu'il n'y a quasiment personne qui venait. Donc ils avaient une convention avec le CAUE, avec trois quarts de temps, une personne en trois quarts de temps qui venait faire des permanences, mais sur une journée, il y avait trois personnes. Donc, à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux, effectivement, en amont, tout de suite se poser la question de, ça c'est transversal, mais comme je disais, les emplacements de réseau aérien, il ne faut pas les faire parce qu'on a envie de les faire. Quoi. C'est important de se poser la question de l'utilité, et puis du coup, même si c'est un parc et qu'on fait parfois des projets un peu utopiques, donc parfois ça peut justifier alors, des dépenses sur des projets expérimentaux qui peuvent apparaître pas forcément très utiles, je dirais, tout de suite, mais quand même, globalement, il faut essayer effectivement de réfléchir à ça.
Je pense que le parc, pardon.
Juste, on pourrait remettre comme dans la thématique déchets eau, la sensibilisation. Même s'il n'y a pas d'espace infra-énergie, je pense que c'est important de la sensibilisation.
Oui. Je pense que le rôle du parc pourrait être aussi de centraliser et de synthétiser, de faire une espèce de veille technologique. Et puis une veille de toutes les subventions, etc., qui existent dans la
salle. Ça, c'est déjà le rôle de l'espace
imprimé. Oui, non, mais c'est pas vraiment connu, il n'y a pas de visibilité.
Mais
c'est
seulement. Moi, je pense qu'il y a quand même déjà
beaucoup
de choses qui se font en fait. Avec les situations, avec les services de l'État, c'est sûr.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un, à un moment donné, centralise, et le parc me paraît être la bonne chose, le bon organe pour centraliser les infos. Et synthétiser l'information et la redistribuer de façon digeste, parce que quand on va sur le site du Conseil général régional, l'État, de façon digeste, redistribuer les informations aux particuliers, aux
et en étant, puisqu'on est à l'échelle du territoire, encore plus précis, par exemple, sur les localisations de plateformes. De plaquettes, pour les granulés, ou pour les conseils de.
Les gens à quoi, les industries locales,
pour les photovoltaïques, en termes de conseils d'installation, prendre en compte la problématique neige, par exemple, choses comme ça.
Ouais,
ça me semble être voilà, une opportunité pour le territoire en termes de relais, mais avec une efficacité renforcée par rapport à certaines spécificités. Pour les particuliers, et y compris donc après même pour les collectivités ou pour les grosses structures, il faut être en mesure de renvoyer sur ces lignes pour qu'elles fassent des études de faisabilité, etc., des recherches de financement. À ce moment-là, c'est pas la peine de mettre quelqu'un puisque c'est ces lignes de fait. Relais de recherche de financement, c'est important.
Hein.
Parce que voilà. Tout à fait. Donc un document qui puisse donner des explications sur voilà.
C'était quoi, j'ai
une sorte de plaquette d'information sur
la
Oui,
par exemple,
avoir de l'électricité chez toi,
d'une manière.
Avec les énergies.
Ah, d'accord.
Il peut y avoir des thématiques du parc qui sont
contributants. Et en même temps,
les abris de jardin, ils en parlaient.
Avec un annuaire des.
À distribuer en mairie pour.
Sur le territoire du Col de France, on a indiqué pour construire.
Ah, voilà.
Mais je pense même. Mais je pense même que le travail à faire vraiment avec les énergies soit vraiment sur le neuf. Parce que c'est pas le neuf qui va se développer. trouve que c'est quand même plus l'ancien qui est en rénovation qui est à refond. C'est vraiment le parc existant qui est les années 30.
Et
les
parcs qui
vont aller dans la dernière, ça peut être la grande distance. Oui, aussi. Mais de toute façon, sur la construction neuve, il y a la rénovation thermique qui va arriver.
Oui, je
suis
d'accord.
Mais
en fait, même sur la rénovation, généralement, quand on arrive à faire des travaux sur sa maison, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Il faut qu'on fasse un agrandissement, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous motive, parce que tout le monde a des problèmes d'isolation. C'est extrêmement cher, donc personne ne le fait. Si on dit j'agrandis une pièce, je change une arabe, tout, c'est une impulsion pour faire un gros travail.
Mais c'est une petite partie par rapport au.
À l'existant.
Ça représentera
de donner l'information et dire aux gens que c'est important.
C'est pousser sur l'information plus importante.
Il faudrait que les municipalités aient un plan pluriannuel de remise aux normes de tous leurs bâtiments publics, etc. Ça paraît très indispensable. Parce que les écoles hyper chauffées et on gaspille tout par les
déjà sur les EPCI, les bâtiments les plus récents, c'est toujours les EPCI qu'ils ont construits. Et ils construisent encore des choses, parce que souvent c'est récent. Donc une des actions qui serait quasiment prioritaire, ce serait d'aller vers les EPCI dès le début et de leur dire, voilà, les prochains bâtiments que vous construisez, en signant la charte, vous signez qu'il y aura des critères.
Alors, il y a une ressource pas négligeable, je pense, dans le territoire, c'est l'hydroélectrique.
Effectivement. Ça représente, je ne sais plus, 11% de production du territoire, je crois.
Et je pense que ça pourrait. Il pourrait y avoir plus de ce qu'il y a actuellement. Il pourrait y avoir des micro-centrales.
Ça avait été dit. Ça a disparu.
Là-dessus, il recense que les objectifs prioritaires.
Dès qu'on rentre dans le mode opérationnel.
Dans les atouts, on avait fait apparaître les micro-centrales, les électriques, etc. Et ça n'y est plus là.
Et c'est le.
Tout ce qui est micro-centrale et nouvelle, ce sera très difficile à mettre en place. Parce que il y a un enjeu important à côté de la relation des étudiants qui n'est pas forcément en accord avec le enjeu de développement énergétique.
On est d'accord, mais ça c'est à étudier et à pas. Enfin, on ne peut pas dire on va mettre zéro micro-centrale alors qu'il y aurait des endroits où ça pourrait se faire.
Donc,
c'est comme les. Et il y en a, en plus, on a effectivement dit.
Non, mais.
C'était marqué dans les enjeux. Hein, restauration,
mer. Ouais,
ça, on a enseigné plus.
Et puis, même des nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un barrage sur la rivière. Maintenant, il y a des techniques. Peuvent être faites sans modifier le cours de la rivière.
Non, mais on est d'accord qu'il y a des endroits où c'est sensible, il ne faut pas le faire, mais il y a des endroits où on pourra le faire. Donc c'est là où le parc peut essayer de se positionner.
Il y a des endroits où ça existe. De toute façon, le parc doit avoir une approche transversale des enjeux du territoire. Effectivement, sur les sites. Sur lesquels ce ne sera pas possible. C'est d'ailleurs au parc de cibler là où ce ne sera pas possible. Et par contre, il faut aussi localiser les endroits où ce sera possible de faire cette installation.
Est-ce qu'on a un inventaire
des centrales existantes? Dans l'étude de 2004, il y a juste le pourcentage de production, peut-être, qui cite.
Ça a été indiqué comme existant, mais ce n'est pas localisé.
Ouais, c'est pas localisé. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être fait aussi assez rapidement.
Est-ce que vous voyez d'autres actions à mettre en œuvre, alors prioritaire ou moins prioritaire?
Sachant qu'en sous-commission, vous aurez l'occasion
voilà, mettre en cohérence, réorganiser, compléter. Là, on a déjà pas mal avancé, mais...
Pour ceux qui sont dans les sous-commissions de cette commission-là, la définition, vraiment, la façon de les mettre en place, affiner tous les dispositifs, retrouver quels seront les acteurs et les partenaires, ça sera le rôle de la prochaine sous-commission qu'on a vu tout à l'heure, dans le calendrier. Bon, donc, on passe au troisième point des orientations stratégiques. Mieux connaître les pollutions, risques naturels et nuisances présentes sur le territoire afin de mieux les maîtriser et contribuer aux actions de prévention. Alors, quatre possibilités en termes d'objectifs opérationnels. Connaître, suivre, anticiper les pollutions, sources de pollution, risques naturels et industriels présents et à venir sur le territoire. Réseau de spécialistes à mobiliser. Sensibiliser, responsabiliser et informer les acteurs et la population sur la sensibilité du territoire aux différentes pollutions, risques et nuisances et aux enjeux liés. Limiter et réduire les pollutions présentes sur le territoire, notamment celles portant atteinte à ses spécificités, pollution lumineuse, décharge, pollution visuelle. Diminuer les conséquences humaines, sociales, environnementales et économiques des risques naturels. Là aussi, je crois qu'on avait bien exploré tout ce qui était au départ, dans la réunion de grâce, puis dans les sous-commissions, où on avait, pour revenir sur les pollutions lumineuses, effectivement dit que parmi les actions, inciter le DEC et les maires à utiliser des produits type lampes basse consommation, les LED, pourquoi pas, et surtout l'orientation du flux lumineux. Oui. On avait rajouté le fait de faire des économies en modulant le principe de l'éclairage sur des tranches horaires, notamment nocturnes, qui était un peu inutile, enfin, forcément nocturne, ça va pas être important.
Et voilà. Éteindre, ça me paraît aussi important parce que c'est aussi un thème très transversal, ça, les lumières. Par exemple, on pourrait être aussi un parc dans lequel on redécouvre un paysage nocturne. Il y a des paysages nocturnes très 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 jolis.
C'est vrai.
Et là, par exemple, il faudrait par exemple, je ne sais pas comment faire, faire aussi intervenir au niveau des particuliers. Parce qu'avec le mitage de l'habitat, bon, c'est les particuliers chez eux et on l'envoie, on 1000 watts répartis tout autour de la maison toute la nuit. Bon, vous voyez, il y a plein de.
C'est ça.
Ça, le mitage, c'est excessivement mauvais pour la biodiversité.
Aussi. Donc là-dessus, c'est aussi de la sensibilisation.
La sensibilisation, puis ça, ce sont aussi les mairies hein, qui devraient aussi. Dans leur.
Ouais.
Et lui et tout. J'espère
que les nouveaux seront. Le partenaire que je voulais identifier, c'est donc le SDEG hein, qui peut faire des plans lumière. Hein, il est dans cette compétence-là, faire des plans lumière. Il peut, et aussi, quand le maire sollicite après une délibération, une subvention auprès du SDEG, qui est en fait une subvention du Conseil général, avoir des recommandations techniques allant dans ce sens. Hein.
Ouais. On est venu dire que voilà, c'est pour sa commune, il voulait mettre un nouveau lampadaire et que le SDEC disait je vous en ai pas trois, je vous en donne deux de plus. Donc il y avait aussi des difficultés par rapport à ça, de dire les communes veulent bien limiter, mais on leur en donne deux de plus, trois pour.
Je pense que peut-être.
Cinq pour les trois, enfin il y a des trucs qui
seraient
pas limités. Oui, apparemment,
oui, on a du mal à discuter. Oui, oui.
Il est évident que quand. C'est ce qu'on fait, mais quand on parle avec le SDEG de solaire et de photovoltaïque, ça ne leur plaît pas bien non plus. C'est en train d'évoluer. Hein. Mais alors bon, là, c'est le rôle du PNR en plein.
Exactement.
Complet, pas de problème. Hein.
Après, au niveau des pollutions, on avait évoqué dans la soumission. Par rapport surtout de sensibiliser les communes au désherbage. Les communes, le conseil général pour les routes départementales, à ne pas désherber n'importe comment, surtout à ne pas utiliser de produits chimiques. Et après, on avait réfléchi sur le fait de, peut-être d'instaurer au niveau du parc une centrale d'achat pour les communes et certains habitants de produits phytosanitaires bio. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont certifiés. Du coup, ça faciliterait le travail parce que souvent, les communes, il y a le représentant qui passe, on a besoin de ça, il nous manque, on achète, ça, c'est la facilité. Alors s'il y avait une centrale d'achat, la commune, elle passe un coup de fil, elles sont livrées, c'est au cœur du parc. Et pouvoir en faire bénéficier aussi les particuliers qui voudraient, je sais pas, utiliser les sacs.
Il y a aussi le fait de ne pas tailler ni fausser des routes à 1 cm, puisqu'en fait il y a toute une faune qui se développe aux abords des routes. Et il y a des conseils généraux qui ont mis en place une gestion différenciée, donc c'est assez rare, mais il y en a qui l'ont fait. Oui, la question du sel, c'est surtout ici, mais la question est la gestion différenciée, donc ça c'est une pratique qui est quand même assez récente et assez innovante. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
On s'était aussi assez inquiété dans cette sous-commission, ça ne parle pas d'une de la pollution sonore qui est de plus en plus prégnante avec le tourisme aérien. Mmh. Hein, les petits avions, les hélicoptères, les ULM, de plus en plus ça se développe. Hein, on voit ça, c'est ce qu'on avait dit aussi.
Oui, ça a été évoqué.
En 20 ans, il y a eu une croissance presque exponentielle des bruits aériens.
C'était bien le rôle de cette séance de travail que de vérifier si tout y était et si il fallait rajouter d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'il faille repositionner?
C'est vrai que pour faire un point global sur cette thématique-là, les risques et les nuisances, c'est pas forcément quelque chose qui est traité de manière prioritaire par les parcs. Ce qui est grand dans les chartes, c'est quelque chose qui vient de manière secondaire, faut bien le dire, pour être clair. Après, c'est vrai que selon le niveau de pollution ou de désagréments, il y a un niveau de priorité plus important qui peut être considéré, quoi. Donc ça c'est à voir, mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas régler ici et que doit être inscrit. Mais il y a la réflexion à mener dans les premiers mois d'existence du parc pour savoir exactement pour chaque nuisance quel est le niveau de priorité et du coup le niveau d'intervention devra adopter le parc.
On avait longuement aussi parlé de la circulation sur les chemins par rapport aux motos, quoi, vous savez,
c'est
ça
avait été. Mais il y a un objectif opérationnel qui a été mis sur la gestion recyclée des usages, y compris motorisés, avec question des impacts environnementaux et de la mise en sécurité des sentiers. Donc, ça, c'est très cool.
Il y a autre chose là pour les rallyes. Donc, chaque fois qu'il y a un rallye, par exemple, je crois que mon pécarlo passe par chez nous. Donc, tous les spectateurs qui viennent, quand ils partent, bah, c'est des tas de déchets, des arbres coupés pour faire un bon jeu pour se changer la nuit.
Ouais. C'est intéressant. Le parc pourrait faire un partenariat.
Voire éventuellement avec les organisateurs,
bon, c'est ponctuel, oui et non, parce qu'il y a une multiplication des épreuves au long de l'année. Il n'y a pas que le Monte Carlo, hein. Il y a la fin, il y a le Rallye de Grasse, Par contre, en principe, les automobiles clubs organisateurs sont des partenaires qui sont assez sensibilisés à ces problèmes-là. Alors, je suis surpris que surtout l'automobile club de Monaco, qui a été très menacé justement sur la pérennité de son épreuve et qui avait fait beaucoup d'efforts, n'est pas pris en compte ça, parce que soit ils indemnisent les municipalités, soit ils font le travail eux-mêmes. En principe, hein.
Même s'ils indemnisent les mairies, les municipalités par la prise n'ont pas les moyens de suite de ramasser ou de. Il y a un camion de ramassage qui passe, d'accord, il laisse ça tourner. Mais...
Ouais.
Donc des fois, ça dure 15 jours, 3 semaines avec des détritus au bord de la route. Bon.
C'est peut-être le cas de Cigale, mais sinon, il suffit qu'il y ait un employé communal hein, pour ramasser. Quoi.
Parce que c'est tout au long de la route, donc c'est pas que dans le.
Ça c'est sûr, mais enfin bon, si après il y a un accord, parce que logiquement toute épreuve doit recueillir l'accord de la municipalité. Il y a la commune du Mas, par exemple, où il met plein de préalables avant de donner son accord. Et notamment la remise en état des abords, etc. Et ils le font, hein. Ils le font, parce qu'ils savent que sinon ils n'auront plus l'autorisation de repasser. Il faut être ferme avec les organisateurs et puis et leur dire non, et le préfet est obligé de suivre. Hein. Dans la traversée du village, c'est la police, la compétence du maire au niveau de la police, et il peut tout à fait interdire le passage du rallye. Alors bon, s'ils ne peuvent pas passer au milieu du village qui lui-même est sur le parcours d'une épreuve chronométrée, ben, il n'y a plus d'épreuve chronométrée, il n'y a plus de rallye. Donc moi je pense que de ce côté-là, le parc peut tout à fait aider, hein, on est bien d'accord. Hein.
Ça peut être traité au niveau communal, ça doit être. Mais bon, on laisse sur l'ensemble des communes ou du tracé du.
Eh bien, le parc peut dire sur le territoire du parc, vous assurez plus d'épreuves chronométrées en tant que rallye, machin, etc., tarpampion, critère alpin ou Montégard, si vous n'êtes pas dans ces considérations de compensation financière ou de prestation de la part de vos adhérents. Voilà, ça c'est un relais que le parc peut être associé. Hein. Oui, mais voilà.
S'il y en a beaucoup qui sont aidés, ça peut être pertinent.
Oui, il y a ça, entre 6 et 9 épreuves par an. C'est les mêmes routes, quoi.
Ça fait pas mal, hein.
Ouais.
Donc, ça, c'est l'aspect professionnel. On avait aussi évoqué la pratique au milieu naturel, l'activité motorisée, pillage, voile, etc. Est-ce que le parc, par exemple, ne pourrait pas, bon, dans son périmètre ou hors périmètre, en parlant avec des EPCI, trouver un endroit non protégé, bien sûr, etc., qui n'embêterait personne pour créer une espèce de circuit
Ils sont sur la commission paysage, ils sont là-dessus.
C'est la préfecture maintenant
qui interdit partout ailleurs et dire aux gens vous avez un circuit.
Mais c'est interdit partout de toute façon.
Ben oui, c'est tout ça, c'est ben, les gens ils en font quand même. Quoi. Ouais.
Mais en fait le parc il a la responsabilité de la mise en place du schéma des activités motorisées sur son territoire. C'est une des deux seules compétences un peu légales qu'il a en relation avec la préfecture. Mais le problème c'est qu'en général c'est tellement compliqué. En fait, il y a les conseils généraux qui doivent mettre en place les plans départementaux d'itinéraires motorisés, les IRM. Il n'y en a aucun qui a été mis en place, et a priori, c'est une loi qui va être, entre guillemets, gommée, parce que c'est quasiment impossible à mettre en place, il y a trop de responsabilités. Donc les parcs, c'est un peu la même chose, ils ne sont jamais trop arrivés à le faire. Par contre, sur les sites naturels sensibles, où c'est indispensable, là, le parc doit limiter, par la mise en place d'obstacles, les activités motorisées. Ça, c'est sa priorité. Après, gérer l'ensemble des activités motorisées sur son territoire, trouver des espaces et tout, c'est jouable. S'il y a vraiment des enjeux très importants, il peut s'y investir. Mais en plus, c'est pas lui qui décide, puisque c'est la préfecture qui donne les autorisations sur les terrains, pour les activités notamment moto. Aujourd'hui, les clubs moto, ils doivent avoir l'autorisation préfectorale. Parce que pareil, question de nuisance, ou une nuisance. Donc c'est possible, mais c'est en relation forte avec la préfecture et puis en fonction du niveau, encore une fois, du niveau d'enjeu.
Bon. Là, dans la sous-commission, il y aura des actions à déterminer.
On a aussi évoqué la menace d'une deuxième ligne à trop de tension qui risquerait, si elle se fait, de traverser le parc.
J'avais expliqué que ça, en principe, ça pouvait plus se faire dans la mesure où elle avait été l'objet d'un jugement au niveau du Conseil d'État. Que, ça peut plus, juridiquement, elle ne peut plus se remettre là. Hein.
D'accord.
Alors bon, est-ce qu'elle peut passer 10 km plus à l'intérieur du parc? Ça m'étonnerait, puisque celle dont on parle vient déjà du parc du Verdon. Donc là aussi, a priori.
Mais avec les plus récentes, est-ce que.
Justement, quoi. Qu'est-ce qui justifie la mise en place de la ligne THT? C'est la mauvaise qualité de la desserte?
Ah oui, c'est tout à fait. Oui, la région est totalement desservie.
Pas au niveau du parc.
Non.
Ça restera pas les problèmes
qu'il
y a la desserte.
Il n'y a pas des solutions alternatives.
Mais la solution, il a été annoncé officiellement qu'il y avait une première action, ça c'était d'enfouir la ligne de 125 000 actuelle. Et la deuxième, de pallier les 225 000 kilovolts qui manquent par des énergies renouvelables En tous les cas, par l'économie, c'est ce qui a été écrit, hein. Par l'économie de la dépense d'énergie électrique, qui doit augmenter dans le département avec le chauffage au bois, plaquettes forestières, avec les panneaux photovoltaïques, etc. Pardon ? Oui. Voilà, mais il n'y a pas, pour l'instant, l'EDF n'annonce pas qu'ils vont mettre une deuxième étude en chantier pour.
Pas de relance de.
Pour l'instant, non. Hein. Pour l'instant, non. Donc, pas sur le territoire du parc.
Il y a suivi quand même de cette. Et quand même, le parc devra quand même suivre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là.
Ah, bah oui.
Ah, oui.
Ça, de toute façon, ils n'ont qu'une solution, c'est de passer beaucoup plus au nord. Oui, ils reviendraient par le parc.
Ouais, si
par ici.
Par ici.
Ça reviendrait par ici, par.
Dans le cas.
On va voir.
Avant de terminer, est-ce qu'on peut quand même faire un zoom sur au moins les risques naturels, les risques incendies? Je ne sais pas s'il y a des gros enjeux à ce niveau-là sur le territoire. Est-ce que le département a mis en place le schéma départemental des risques incendies?
Ou est-ce que il y a des PPA incendies.
Donc, en sur incendies, ils ont tous été mis en place?
Ah non, non, non. Mais ils sont mis en place, mais là, il y a des risques avérés. Sur les communes à très faible population et à très faible développement, il n'y a pas de incendie. Puisqu'en plus, généralement, ça va avec les postes. Et comme on l'a dit hier, il y a beaucoup de postes sur le territoire, enfin sur l'ouest du territoire.
Nous, on avait ciblé en faiblesse un risque d'incendie de forêt avec aggravé par une gestion insuffisante de la forêt.
De la forêt.
Tant privé que public. Mais sinon, le risque d'incendie est modéré, mais il est aggravé. Il peut être
par un non-entretien.
Par un manque d'entretien de toutes les forêts.
Et puis là, c'est l'hiver avec le nombre d'arbres cassés qu'il y a, tout ça qui peut sécher. Ça va encore, s'ils ne sont pas entretenus, débarrassés, ça va encore aggraver.
Il y a du bois, hein, par terre.
Donc il y a quand même des actions de, je ne sais pas, si on peut faire des embroussaillements, mais d'éclaircissement.
Ça a été déjà une fois sur une meilleure gestion de la forêt.
Moi, je pense que quand même, objectivement, la forêt publique, qu'elle soit de l'État ou des communes, elle n'est pas si mal entretenue que
non,
ça.
Non, mais il y a pas mal de privés quand même.
Les préalables sont pratiquement le territoire où c'est géré. Enfin, l'ONF est présent, il y a de tout le département. Après, ça dépend des communes, c'est pas pareil.
C'est au niveau des privés aussi. Oui, la forêt privée, voilà, c'est ça.
Alors, on peut identifier les partenaires, c'est l'ONF pour la forêt publique et le CRPF pour la forêt privée. Mais on avait dit que là, il y avait du boulot à faire avec le CRPF, que justement, ça puisse déboucher aussi pour eux sur une valorisation de leur bien, en somme, à travers la plaquette forestière.
Tout à fait, parce que de toute façon, c'est majoritairement du vin qui a un rendez-vous, donc c'est largement valorisable en bois énergie plutôt qu'en autre valorisation. Donc, mais je pense que le travail qui a été fait sur l'Ouest, un petit peu, le canton de Saint-Aubin, ça serait à prendre en exemple pour l'élargir à tout le corps du parc. Donc après, il faut voir ce que sera la priorité du parc, si c'est la forêt, si c'est l'eau, si c'est le patrimoine, l'économie, mais je pense que la forêt, c'est un rôle important.
Valoriser la forêt en termes d'entretien et de rentabilité, c'est complètement transversal avec la partie économique et la partie DFCI, quoi. Complètement. Plus la forêt sera travaillée pour qu'elle ait un rendement en bénéfice des propriétaires, et moins elle sera exposée au risque d'incendie. Hein. Voilà, après, bon, c'est vrai que la conjonction d'un climat sec comme on peut avoir, une dominante des résineux comme essence. De nos forêts sur le territoire, on peut avoir des mois d'août soucieux.
Franchement, moi cette année, si j'avais été maire de mon village, j'aurais déclenché un plan d'urgence pour nettoyer les forêts.
De toute façon, il y a une loi hein, qui impose un nettoyage de 50 mètres autour de chaque maison. Et une verbalisation qui peut être faite. Hein.
Des actions par rapport à la pollution visuelle, on avait évoqué une action rapide même avant la mise en place du parc. Il y a beaucoup d'associations qui organisent des nettoyages de printemps en bord de route et d'essayer d'organiser en même temps, la même journée, au niveau de tout le territoire du parc, une action de ce type et voir visuellement ce qu'on récupère, comment on peut le traiter, le revaloriser.
Sur les pollutions visuelles, ça serait à quel niveau?
Mais les sacs en plastique qui restent.
Les bouteilles, les canettes.
Les canettes de bord de route.
Les carcasses de voitures abandonnées.
Oui. Ouais.
Là, avec les gros coups de vent qu'on a eu, il y a eu un gros coup de vent en fin novembre et à nouveau un gros coup de vent en mars. Et on a vu tous les buissons, partout où il y avait des conteneurs qui avaient été renversés. Par le premier coup de vent, le deuxième coup de vent, ça a tout tapissé les buissons notamment. Quoi.
On n'a pas parlé des décharges sauvages justement. Est-ce que c'est un enjeu ça, est-ce qu'il y a beaucoup de décharges sauvages sur le territoire? Parce que ça en général c'est les
beaucoup
communes.
Non. Non.
Beaucoup non.
En général c'est les communes qui s'occupent de faire l'inventaire des décharges, donc ça peut être fait assez rapidement.
C'est pas forcément des décharges. Non.
C'est des décharges. Quand on dit décharge, oui.
Sur le territoire.
Ah ben, il y a toujours des incivilités sporadiques. Hein.
Les cours d'eau sont souvent des décharges.
Les cours d'eau, oui.
Voilà, c'est pour ça qu'on pourrait voir justement et faire plus d'inventaire pour nous enlever du nettoyage.
L'association de Valérie Kikoujon, dans la vallée du Loup, ils ont chaque année, ils remontent du Loup, des tonnes de la mairie de Loup, mais à destination de Belle.
C'est que là aussi il y a une sensibilisation à faire.
Peut-être effectivement mettre en place des journées à thème pour voilà dans l'enceinte du parc pour mobiliser un petit peu.
Sinon il y a une pollution à laquelle on ne pense pas. Je ne sais pas si ici c'est important, mais c'est les plombs des chasseurs. Je sais qu'il y a des endroits où ils ont retrouvé du plomb dans le lait des vaches, parce que les vaches, elles mangent l'herbe, elles mangent le plomb avec. Et il y a des pays où les plombs ne contiennent plus de plomb, donc c'est interdit le plomb. Il y a des pays, la France est encore en retard là-dessus. Alors
c'est vrai que pour les bas des sites de bas de trappe, c'est le construit.
Ouais, enfin bon. Hein? Moi j'y crois pas. Hein.
Ah si. Non. Pollution de l'eau, par les bas de trappe et.
On fait de l'arithmétique et pas vérifier. C'est que de l'arithmétique. Hein.
Si, c'était vérifié parce qu'il y a des pays.
Mais pas les chasseurs, en tous les cas, pas les chasseurs. Sur les maltrapes, allez, je veux bien qu'on s'y penche.
Oui, peut-être, ouais. Mais, sinon, ils n'auraient pas.
Est-ce qu'on a les maltrapes sur le territoire?
Oui, à Grasse, Cabris.
Il y a celui de Cabris. Ouais. Ben, c'est Speracel. C'est sur la limite de Speracel de Saint-Valier.
Il faut savoir que le plomb en.
Mais nous, on ne peut rien, là, sur le gazoduc. Comme. Le gazoduc, sur le gazoduc, on ne peut rien.
Le plomb en très petite quantité, c'est un polluant important. Donc il n'y a pas besoin qu'il y en ait des énormes quantités pour que ça soit néfaste. Quoi. Enfin, pour que ça.
Ça serait plutôt une action à déléguer à une association, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même très secondaire. Je ne sais pas si le parc. Par rapport aux autres priorités qu'il aura pour s'investir là-dessus.
Non, je ne sais pas.
Enfin, moi, je ne vois pas en train de faire une sous-commission avec des chasseurs et leur dire arrêtez de tirer.
Non, c'est pas ça. C'est remplacer les plombs par des billes d'autres choses. Il y a pas en France.
En France, c'est pas. C'est pas...
C'est
la routine qui est interdite, mais on peut tirer, on peut tirer les petits plombs, les oiseaux et tout ça.
Il y a, des pays où c'est interdit, le plomb.
La routine est interdite.
Mais à d'autres pays, c'est interdit depuis très longtemps. Et en France, pas encore.
Je pense qu'après, sur entre guillemets, la poche des chasseurs, il ne faut pas y arriver comme ça en disant on va vous interdire le plomb. Ça, c'est hors de question.
Non, mais
ça,
on le remplace.
Non, mais c'est remplacé.
Je pense que là-dessus, il faut un
nommer. Il y a des amis chasseurs, il faut effectivement leur faire comprendre parce qu'ils participent.
Voilà, c'est pas quelque chose à aborder dès le début, quoi. C'est quelque chose à aborder au bout de quelques années d'existence du parc. Mais je pense que c'est pas quelque chose à aborder dès le début parce qu'il faut éviter de braquer les gens.
Les chasseurs se mettent déjà faire ramasser les cartouches.
Oui, mais. Non, mais c'est plutôt une législation à avoir au niveau, je sais pas à quel niveau, mais.
Politique.
Mais.
Après l'impact du parc là-dessus, c'est.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres très rapidement risques naturels à aborder qui
étaient... on avait dit que le risque sismique était modéré hein, sur a priori l'ensemble du parc, sauf peut-être son côté le plus oriental, donc par ici, et qu'on avait quand même comme atout d'avoir de participer à un réseau national, le réseau RENAS de sismographes. Avec des relais à la préfecture, etc. Donc un suivi régulier de toute la faille qui va de Nice à Strasbourg. Donc, mais sur l'ensemble du parc, c'est un risque tout à fait modéré.
Ok.
Par rapport au risque industriel,
on avait dit qu'il y avait deux sites de Céveso potentiellement sur le territoire.
À risque réduit, c'est du Céveso 2, risque réduit, à les
sites de Céveso. Où ça ? Risque réduit ?
Man et...
Je pense pas sur...
Par la Direne. Sur le site de la Direne, il y a des cartes mises à jour de 2008, je crois, très
bien. Il y en a où c'est
ce que tu as fait en brochure de l'évolution. Et Man est un site, c'est des nouveaux sites de réduction. C'est des noms de...
Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'on conclut rapidement sur la suite de la démarche, très rapidement? C'était juste pour vous dire comment on va procéder à partir de demain. Donc, en sous-commission, vous aurez la possibilité de travailler la finalisation des listes d'actions avec éventuellement des niveaux de priorité. Donc, comme on l'a vu, il y a des actions qui sont secondaires, des actions qui sont prioritaires. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire une mini-fiche de méthodo pour voir comment on classe, est-ce qu'on met 3 niveaux, 5 niveaux de priorité, enfin, quelque chose d'assez simple. Pareil, identifier les partenaires par objectif opérationnel, ça c'est très important, parce que là il va falloir, nous de notre côté, on va évidemment solliciter le conseil régional, général, l'État sur la démarche, puisque pour l'instant ils sont peu impliqués, ils ont préféré laisser la concertation se faire au niveau local, maintenant on va un petit peu les informer. Par contre sur les partenaires entre guillemets de niveau secondaire, c'est-à-dire qui ne vont pas donner des grosses enveloppes financières, mais il y en a énormément, il va falloir les lister et puis les approcher progressivement. Ça peut être un travail qui sera fait par les membres des commissions, sous-commissions, les élus du territoire, aller voir les acteurs du tourisme, aller voir le CAE, voir les associatifs, voilà. Donc il y aura tout un travail, donc il faut identifier les partenaires. Le calendrier, ça serait, on a mis 17 avril, donc aujourd'hui à début juin, donc ça fait un mois et un peu moins de 2 semaines, pour se réunir 1 à 2 fois selon les besoins. Pour voir un petit peu, approfondir l'évaluation des actions et des partenaires. Fin mai, il y aura un forum territorial, le 3e forum territorial, donc qui sera un forum élargi habitants, structures professionnelles, tout le monde, quoi, qui nous permettra de présenter finalement l'architecture de charte qu'on a vu aujourd'hui, retravailler. Et comme on l'a vu, ce qui est intéressant quand on travaille sur les actions, c'est qu'en fait, on ne fait pas que terminer la boucle, mais une fois qu'on a terminé la boucle, on remonte et on dit finalement, en rentrant dans le concret, on s'est aperçu que l'objectif n'était pas si bien ciblé que ça, et donc nous, on va faire un travail, une fois que vous aurez envoyé toutes les actions, de réajustement de la stratégie. Donc ce forum-là va permettre de présenter la stratégie et puis pourquoi pas commencer sur les grandes actions un peu emblématiques, en parler, voir, c'est à voir.
Sur le travail des dataires, nous, on va attaquer la rédaction de l'avant-projet de charte à partir de début juin. Donc, il y aura le temps du forum territorial, du retour sur les actions, sachant que ce sera une V1. Donc, c'est pas, il y aura une deuxième version qui sera réactualisée au mois de septembre. Là, on est sur une V1, sur, voilà, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu, il y a beaucoup d'idées qui ont été réunies. Déjà, essayer de voir ce que ça donne quand on le met sur papier. D'une part, d'autre part, nous, il faut qu'on avance parce qu'il y a un calendrier à tenir, donc on va avancer. Mais c'est pas définitif. Ce sera une version qui sera remue, qui sera présentée en comité syndical, qui sera présentée aux participants, aux habitants. Et puis aussi la version 1 du plan de parc qui va consister à la récupération des couches de systèmes d'information géographique qui sont obligatoirement qui doivent obligatoirement être représentés sur le plan de parc. Donc ça va être les sites Natura 2000, s'il y a des zones de protection architecturale, enfin, toutes les zones obligatoires. On va prendre le périmètre, même si ce n'est pas le périmètre abouti, le périmètre des communes, et on va positionner tout ce qu'on peut positionner. Si on peut récupérer les couches sur l'espace agricole, ce qui n'est pas évident, mais on va essayer, on va positionner les espaces forestiers pour faire un premier plan de parc, on va dire, descriptif, objectif. À partir de là, ce sont les élus du syndicat mixte qui vont reprendre ce premier travail, qui vont aller voir les élus des communes en leur disant, voilà, on a le plan de parc, sur votre commune, on a identifié un enjeu de protection, par exemple, du patrimoine architectural, vous avez un bourg promontoire, est-ce que vous acceptez de positionner un enjeu de densification pour éviter le mitage sur le territoire de votre commune? Voilà, c'est ce genre de choses qui va être fait pour aboutir à la version 2 du plan de parc. Donc ça sera pendant l'été, et au mois de septembre, on aura fin septembre, normalement, la V2 de l'avant-projet de charte et la V2 du plan de parc. Voilà, à peu près pour. Je suis allé loin, mais c'est à peu près ça.
Est-ce que vous allez prendre conscience avec le projet de Scott?
Et on va prendre en compte sur le plan de parc
dès la V2. Hein, c'est le contraire, c'est Scott qui doit se mettre en cohérence avec le projet de PNR.
Nous,
Mais
nous, on va prendre connaissance du SCOT pour voir si la manière dont il a été réalisé est cohérente avec les enjeux du territoire. Si oui, il sera pris en compte. S'il y a des éléments à ajuster.
C'est le SCOT qui s'ajustera. Pas pareil. Il y a le SCOT de la cadre.
C'est pas une question de chronologie, c'est une question de priorité en fait. C'est que le plan de parc est prioritaire sur les autres documents d'urbanisme. Ah. Donc, quoi qu'il arrive, le plan de parc, s'il donne des orientations différentes, ah, les documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux doivent s'adapter. Bon, c'est tout. Quoi.
Cela dit, ça s'impose aux maires qui ont donc signé le fait d'adhérer au PNR. Hein. Voilà, c'est, il en découle ce genre d'obligation. C'est une dérive, hein, quand même, hein, le fait d'adhérer au PNR. Donc, ça veut dire qu'après, il faut en admettre les conséquences, y compris celle-ci. Hein, c'est pas neutre, hein. Mais on l'a expliqué, au départ. En fait, il y a suffisamment de réunions entre les maires, les EPCI, entre les réunions publiques, etc. On l'a expliqué que ça s'imposait à ce niveau-là.
Est-ce qu'on pourrait avoir le document, là, mais remonté?
Oui, le résultat de jeudi. Oui.
Vous avez tous laissé un mail pour à la fois avoir en temps et heure la prochaine convocation à la sous-commission et puis les documents qui vont avec. J'espère.
Donc on vous diffusera une fois qu'on l'aura actualisé.
Gérard va revenir
Bon, merci pour votre participation. N'hésitez pas à vous mobiliser pour les sous-commissions. Il y a des animateurs qui sont de fait
mobilisés
pour les autres. Comment ? Les dates ? Il faut voir, c'est comme la dernière fois, il faut voir avec les animateurs.
A priori, la commission risque naturel pollution nuisance sera, je crois, finir le 14 mai à Consol à l'Observatoire de Calais. Maintenant, on commence encore à l'observatoire, c'est tellement magnifique. Maintenant, on va venir 14h, l'après-midi. Mais je confirmerai, par
mail. Ouais, c'est mieux.
C'est à quelle heure?
commission où vous voulez aller.
D'accord.
C'est peut-être le 11 mai, alors
excusez-moi. Oh, déchets, et puis.
C'est mieux penser que c'est le mémoire, c'est sûr.
C'est bien
le
mémoire.
Vous pouvez avoir après.
Et il y a un comme ça. Ah non.
Ben voilà. Donc, ça doit être bien.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, de la démarche, parce que c'est là, vrai que le syndicat mixte, ça fait tout son possible pour mobiliser les gens, mais. Il y a toujours des gens qui passent à côté de l'information, donc n'hésitez pas à en parler.
Eh bien, bon appétit et merci d'avoir participé activement à cette commission. Et on se reverra dans les sous-commissions.
Oh.